Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
Here you see one of the craft approaching Washington D.C. Police and troops are trying to maintain orderly evacuation of the nation's capital and all the other cities which are threatened by this unknown menace. Roads and highways everywhere are jammed with traffic. Other craft are known to be approaching at least six other major U.S. cities: San Francisco, Houston, New York City, and New Orleans, the Chicago area, and Los Angeles.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life.
Nous sommes le 19 janvier 2015, bonne année et bienvenue au 33e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi mes fidèles comparses.
Bonjour.
Olivier Sabineau et Marie-Louise Gariepi.
Salut. Bonne année.
Bonne année. Bonne santé. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet 24quarks.com. Ça s'écrit 24quarks.com.
Quoi,
sur iTunes. Ça faisait longtemps. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de faire un commentaire, une suggestion, n'importe quoi, vous pouvez nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, at gmail.com. Et ce soir, on s'attaque à notre... C'est la deuxième série de télé qu'on fait, hein?
Oui, la deuxième série
après
série
télé. Battlestar Galactica.
Mini-série, hein, parce qu'on ne sait pas quand même taper...
Ouais. Et, attends, je vais te mettre un peu plus fort.
Ça va, on se pratique, on va pas faire Doctor Who bientôt, là.
Ou Twilight Zone.
Je sais pas.
Non, je pense que Doctor Who, c'est...
Oui, non, il clenche tous les records.
Donc, cette série, bien sûr, c'est une série à succès critique et public des années 80. Et non pas pour visiteurs, mais pour victoire.
Ben oui, moi j'ai toujours pensé que c'était V pour visiteurs.
Ouais,
mais en France, ils ont fait exprès.
En France, elle a été diffusée sous le titre V les visiteurs.
Ah oui, c'est ça. On avait la traduction française. Hein.
Ah
oui,
ok.
Ben oui, les traductions québécoises dans ce temps-là, ça existait. Pas vraiment.
Les Kingston, il y avait des pierres à feu.
Ah ouais, rare exception. Mais pour les pierres
à feu, Trees Company aussi, c'était la québécoise, si je ne me trompe pas.
Ça va être un show de filles parce que j'ai écouté.
Trees Companies. Ah non, t'étais trop jeune, toi.
Ouais, c'est vieux quand même, ça.
Ouais, c'était le truc avec le gars qui était en appartement, qui faisait passer pour gay parce qu'il vivait avec deux filles, puis qu'il fallait pas qu'il ait l'impression qu'il couche avec la fille. Tu vois à peu près l'âge de la série, là. Ouais. C'est un truc des années 70.
Ouais.
Ah, mon Dieu, je peux pas croire que tu connais pas Trace Company. Colin.
Donc, c'est ça, la série V.
Je vais te faire écouter ça un jour, tu vas voir.
La série V qui date de 1983 et qui a été créée par Kenneth Johnson. Donc c'est ça. On parle donc bien de la série originale parce qu'il y a eu un
remake
en 2009.
Ouais. 2009, je l'ai devant moi. 2009.
Et
on est rouillé là. Je pense qu'on.
Ouais, non.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait là.
C'est pas des fêtes, a été rough.
Ouais, c'est ça. Alors pour se mettre en jambe, je vais faire un petit résumé.
Vas-y.
Alors, des visiteurs d'une autre planète d'apparence humaine arrivent un jour sur Terre avec des intentions qu'ils promettent bienveillantes. Mais l'illusion ne dure qu'un temps. Bien vite, les événements dégénèrent. L'apparence humaine de ces extraterrestres n'est qu'un leurre et leurs intentions sont loin d'être pacifiques. Face à cette invasion, la résistance s'organise parmi les humains. On commençait à en parler avant, là, mais... juste avant d'en parler, en fait, on va annoncer la petite...
Boisson.
La petite boisson qui accompagne ce podcast. Pour commencer, alors, pour une fois n'est pas coutume, on boit une bière qui s'appelle l'Insoumise.
Voilà.
Petit titre très à propos.
En l'honneur du protagonisme féminin qui ne se soumet pas, si j'ai bien
Exactement,
compris.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'est une Pale Ale. C'est une
Juliette Parrish. Faye Grant, joué par Faye Grant.
C'est une bière, une bière québécoise.
Ah, pas mal.
Ouais, sympathique, c'est bien.
Ouais, mm-hmm. Bien houblonné, mais pas trop amer, juste bien comme il faut.
Mmh. Ouais, juste insoumise. Bien.
Alors donc, qui c'est qui veut commencer là pour nous dire un petit peu comment, dans quelles conditions.
Bon, mais comme tout le monde me regarde, je vais y aller. J'imagine comme un peu tout le monde qui a mon âge au moins ou un peu plus. On a probablement vu ça quand ça a été diffusé à la télévision originalement dans les années 80.
Moi, t'étais petit quand ça a été diffusé.
Si, mais j'ai vu ça à la TV. Ça a-tu passé en rediffusion une couple d'années plus tard?
Ça a sûrement repassé en rediffusion. Parce que moi, je me rappelle, j'étais pas mal... J'étais encore en Abitibi, j'avais 11 ou 12 ans. Là.
En 83, moi, j'avais 3 ans. Fait que j'étais trop jeune. Ça a dû repasser dans les années quoi, 88, 89, 90.
Ouais, ça repassait parce que c'était le genre de truc qui rejoue plusieurs fois. Là, ouais. C'est ça.
Ça a été un succès.
Ça a été un gros succès. Puis moi, écoute, j'ai allumé là-dessus. C'est probablement peut-être une des premières choses de science-fiction. Non, bon, Star Wars, j'ai vu Le Retour du Jedi en 83 au cinéma à 3 ans, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup de science-fiction entre Star Wars et V. Ben,
non, à la télé, il y en avait presque pas. Il y avait Cosmos 99.
Non, j'ai pas
ça. Ça datait de la fin des années 80.
C'est, ben, on parle de Star Trek, mais tu avais Next Generation qui a commencé 2 ans après.
Ben, c'est pas des choses qu'on écoutait, nous autres, en famille. T'sais. C'était l'époque où on avait une télé puis tout le monde regardait la même affaire. On n'avait pas de télé dans nos chambres. Ouais. C'est les parents qui choisissaient plus souvent qu'autrement c'était quoi la programmation. Moi, j'étais jeune, je connaissais rien.
Non, mais je pense que tu as raison que c'est une des rares séries de science-fiction. Ben, Babylon 5 est venu plus tard, années 90.
J'avais même pas le câble en plus quand j'étais petit, j'ai eu le câble à 14-15 ans.
Next Generation, c'est en 87, donc probablement que le Next Generation était peut-être pas.
Ah, Space 1999, c'est 75. C'est vieux.
Ça, faudrait le faire un jour.
Ouais.
Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, ça m'avait vraiment, vraiment fasciné. Presque flabbergasté, même on trippait là-dessus tellement, moi puis mon frère, on avait même, il faisait des... Ben, c'est drôle parce qu'en le réécoutant, je vois qu'au début, ils se mettent à jouer avec des jouets des visiteurs qu'ils ont fait, puis ils ont carrément, ils ont un peu utilisé le trademark Star Wars, ils ont sorti plein d'action figures, puis de jouets, puis des trucs pour enfants de la série V, puis nous autres, on avait une figurine qui faisait à peu près 30 cm de haut.
Oh, wow.
Avec un piton en arrière, en fait, quand t'arrachais la face.
OK!
Spoiler alert! Il y avait la chose qu'il y avait en dessous, puis il y avait un piton en arrière qui faisait que le bonhomme, il pouvait sortir la langue.
Ah, trop fort!
Avec tout l'uniforme rouge que tu pouvais enlever, tout ça, tu vois, les fois, ta poêle, puis.
C'est trop fort!
Je pense qu'on avait le gars puis la fille, les deux plus connus des visiteurs. Okay, ouais. On a joué longtemps avec ça. Je pense qu'on a dû tellement jouer avec qu'on a dû les casser. Là. Mais non,
j'ai jamais vu ça, moi.
Ça a été un gros hit dans toute la famille. Là. Tout le monde aime ça. Mon père, ma mère, mon frère. Puis moi, c'est le genre d'affaire que, tu sais, c'est rare que tout le monde s'entende sur quelque chose, mais c'est un peu ça.
Ah, c'est cool. Toi, Marie-Louise?
Ben, moi aussi, j'ai vu ça à la télévision quand j'avais, c'est ça, 11-12 ans. Ben, t'as peu 83, j'avais 10 ans. Donc, le temps que ça vienne au Québec, ben, c'est sorti tout de suite, ça n'a pas trop attendu. Je pense que j'avais 11 ans. Et je me rappelle, quand j'étais à cet âge-là, moi, des films d'horreur, tout ce qui était vraiment épeurant, j'aimais pas ça, j'étais vraiment pissou, là.
Ah
ouais,
tu nous avais déjà dit ça.
Ouais, puis je vais vous faire une confidence. Donc, j'ai écouté la série télé à cet âge-là, mais il y avait deux scènes que j'avais pas vues encore. Parce qu'à chaque fois que passait, on les avait enregistrées, je les écoutais plein de fois, là, je les connaissais par cœur. À chaque fois que ces deux scènes-là passaient, parce que mes amis m'avaient dit que c'était vraiment dégueulasse, je fermais mes yeux et je les regardais pas. Puis là, je les ai vues, évidemment, et j'étais morte de rire.
Ben ouais, hein?
C'est une des deux scènes, je me rappelle pas c'est laquelle, mais je pense que c'est un des moments où il devait y avoir un des monstres ou pas des monstres, mais des aliens.
Il y a celle où elle bouffe le rat qui était...
Non, c'est pas celle-là. Non,
c'était une des scènes où tout le monde parlait.
Non, mais attends, c'est super drôle, c'est la scène de l'accouchement, là.
Ouais, ok, oui.
Ben ouais, clairement.
Mais oui, mais quand tu vois le petit monstre et tout, puis t'es comme genre... Ben,
t'es morte de rire.
Ben oui, j'étais morte de rire. J'étais comme genre, c'est parce que c'est pas juste ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on referait la même scène, elle serait mille fois plus dégueulasse, là, parce que les effets spéciaux sont plus sophistiqués, même pour la télévision, surtout pour la télévision.
Surtout, très grosse évolution.
C'est ça. Puis là, tu vois ça, la marionnette. Moi, j'étais morte de rire. Puis là, genre, toutes mes amies trouvent ça dégueulasse. En tout cas, donc, j'ai écouté ça. Je l'ai écouté plein de fois. On l'emmène enregistré en VHS. Puis c'était comme un truc qui rejouait, puis qui rejouait constamment. Tu sais, comme les enfants, on aime ça réécouter les mêmes affaires. Ouais. Donc, je la connaissais bien.
Les classiques de l'époque, il y avait des films qui passaient une fois ou deux par année à TQS. C'était tout le temps les mêmes titres qu'on voyait, puis on aimait tellement les revoir à chaque fois. Je pense que cette série-là est tombée dans la catégorie rerun all the time. Parce qu'à chaque fois, ça devait passer, devait tellement avoir des bonnes cotes d'écoute. Les diffuseurs se disaient, ben, à chaque fois qu'on la passe, on vend de la pub, le monde sont là, le monde trippe. Il y en a des gens qui veulent la réécouter, il y en a d'autres qui la découvrent.
Ouais.
Fait que.
Ah, c'est vrai.
Moi, je sais, aujourd'hui, mais il y en avait moins des séries aussi à cette époque-là.
C'est ça.
Aujourd'hui, c'est l'overload.
Ah ouais, mais ça c'était un truc ambitieux là, elle avait coûté super cher pour l'époque, je me rappelle plus là, mais attends, je dois l'avoir quelque part noté dans mes petites notes.
C'est drôle parce que t'as des, c'est-tu les producteurs ou réalisateurs de l'incroyable Hulk? qu'il y avait là-dedans.
C'était un budget de 13 millions pour la première mini-série, en tout cas. Hein.
Et ça paraît pas dans les effets spéciaux.
Non, hein.
Non, mais 13 millions... Pour l'époque, millions, c'est, pour l'époque, ben, attends, c'était énorme, quand même. Miami Vice, c'était 1 million par épisode.
Et t'imagines, 13 millions, c'était énorme là, pour la télé, tu sais, un truc pareil.
Mais les effets spéciaux des vaisseaux et tout, ils sont quand même bien réussis. Là.
Bon, c'est correct, là, mais, non, mais quand c'est 15 ans avant pour la télé, au cinéma, il avait fait 1000 fois mieux. C'est quand même une marge. Pour la télé, c'était extraordinaire, mais comparé à...
C'est sûr que tu vois ça, tu te dis, OK, à cette époque-là, au cinéma, t'avais des trucs de fou. Puis tu vois ça, tu te dis, c'était quand même...
Mais le commun est mortel, fait pas la différence. Carton pas, ouais. Tu sais, on regardait autant Star Wars, puis V après, puis on voyait la même chose. Là. Ouais, on voyait... Quand t'es pas... tu sais, disons, on a le milieu du cinéma, on est habitué d'en faire, d'en voir beaucoup. Fait qu'on devient un peu pas érudit, parce que bon... Il est plus érudit que nous, mais blasé, on spot tout de suite. Là. T'sais, on spot les faux raccords dans des films quand personne ne voit rien. Il y a comme un immortel qui veut juste se divertir et se mettre le cerveau off. Et... Bon, aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu plus capricieux, mais à cette époque-là.
Mm-hmm. Ouais, moi, ce qui était marrant, c'est que je ne me rappelais pas du tout que c'était. Qu'il y avait... Parce qu'en fait, il y a eu une première mini-série de 2 épisodes d'une heure et demie. Après, il y a une deuxième mini-série qui s'appelle The Final Battle, qui est 3 épisodes d'une heure et demie.
Mm-hmm. Bah, qui allait avec l'autre, parce que...
Ouais, qui était comme vraiment la suite directe. Puis après, bon, ceci dit, la série, elle reprend aussi quasiment là où la deuxième mini-série s'arrête. Puis après, donc c'est ça, t'as eu une saison de 19 épisodes. Je me rappelais pas. Je sais pas comment ça a été diffusé chez nous, je me rappelle pas. Je sais que je me rappelle du début, quand ils arrivent, tout ça, hein, donc je l'ai vu tout ça. Mais je me souvenais pas que c'était sous cette forme-là, en fait. Je pense, dans ma tête, c'était comme c'était une série, quoi, avec des épisodes de
50 minutes. Ah, qui ne savait pas qu'il y avait la télésérie.
Que c'était des
épisodes. C'était sûrement diffusé en épisode d'une heure. Peut-être. Ils ont dû recoter le truc pour que ça n'apparaisse pas trop, dans le
peut-être,
fond.
Peut-être, ouais. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, enfin voilà, donc ouais, j'avais vu ça aussi jeune. Enfin, j'avais quoi, tu sais, en 83, j'avais quoi. Je vais dans la fête, le calcul depuis 68, voilà.
Quand tu veux que je fasse le calcul depuis 68?
Mais bref,
45 ans.
Ouais, j'avais déjà 15 ans. Ouais.
15-16 ans.
Mais
tu l'as vu la première diffusion?
Ouais, j'avais vu la première diffusion. Ça devait être, je pense, l'année qui suivait. On les avait pas tout de suite.
Ouais,
tout
c'est
de
ça,
suite.
Moi je pense que c'est ça, je vais avoir 11 ans.
Ça fait en 84 ans qu'on l'a vu. Mm-hmm. Mais, et je me rappelle, enfin, je sais que j'avais pas tout vu. J'avais vu quelques épisodes, j'avais vu le début, quelques épisodes.
Toi aussi, tu fermais les yeux pour la scène de l'accouchement?
Et puis, ouais, puis d'ailleurs, en 2009, j'ai vu je l'ai vu le remake.
Mm. Puis t'en as pensé quoi du remake?
Ben en fait, faudrait qu'on commence à parler un petit peu de
l'épisode avant de parler du série, remake,
mais,
ouais, c'est vrai.
Mais écoute, le remake, c'était décevant. Dans le sens où, ce que j'ai. Bon, au-delà du fait que c'est un truc des années 80 qui a vieilli, puis qui est comme limite difficile à regarder. Ouh, une autre bière. qui est par moments un peu difficile à regarder tellement c'est cheap, tu sais.
La télévision a vraiment fait beaucoup de progrès. Ouais, c'est fou,
énorme,
là.
Énorme, énorme.
Mais j'ai quand même eu du plaisir, moi, à la revoir. La
ouais,
série.
Mais en fait, au début, j'étais là. Oh, ça va être dur. Oh là là, c'est cheap, ça va être dur et tout. Puis en fait, tu rentres dedans, puis ça marche, quoi. Par contre, quand je suis arrivé dans la saison là, des 19 épisodes, là, j'en ai vu 3, puis j'ai arrêté, ça a commencé à devenir n'importe quoi. C'était du recyclage de scènes des mini-séries, tu sais, genre, ça voulait plus rien dire.
Mais juste un follow-up sur ce qu'on disait tantôt, j'ai fait une petite recherche internet, puis il n'y avait vraiment pas grand-chose dans les années 80 en termes de science-fiction. Là.
Non, puis ils ont clairement
des séries en général.
Ils ont mis Six Million Dollar Man, qui serait un des meilleurs.
Ah, c'était bon,
qu'on l'a oublié, ça.
Moi, j'adore.
La famille Yannick, Six Million Dollar Man. Puis sinon, c'est toutes des affaires Alf. Ils mettent Alf là-dedans.
Ah, mon Dieu, hey boy.
Knight Rider.
C'est comme avec
un tard.
Knight Rider,
oui.
Twilight Zone. Sinon, Thunderbirds. Quantum Leap.
Thunderbirds, ouais.
Fist of the North Star, c'est des choses que je connais pas. Space 99, The Real Ghostbuster, mais ça c'est comme.
Hein? Non, c'est un cartoon.
Ça c'est un cartoon. Ouais.
Bionic Woman. Bah oui, mais il y a des cartoons dans ma liste.
Ok.
Parce que ça compte les
cartoons. Donc il y avait pas grand chose. Ouais. Ils ont fait
World.
Un bon coup.
Puis, mais c'est tout des trucs que j'imagine qui ont passé aux États-Unis mais que nous on n'a pas nécessairement vu. Là. Galactica 19. Battlestar Galactica 1980.
C'était 80.
C'est l'original, ça?
Ouais, l'original c'était en 80.
Ah, je
c'est pas en 79? C'est pas en 79 qui ont commencé?
C'est une bonne question. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une en 84 aussi, peut-être. Il faut que je me remette ça dedans.
Ils mettent Ulysse 31.
Hein?
Ulysse 31?
Non, pas du tout.
C'est un truc pour enfants.
Ah oui, t'as raison, 78. Non, il y a eu le film de Battlestar Galactica en 78.
Ah ouais.
Puis après, ça a été décliné en série.
Ah ouais, c'est ouais. rare ça. Ah, mais ça se fait de plus en plus maintenant. Là. Ils commencent à prendre des films qui ont eu beaucoup de succès, comme From Dusk Till Dawn vient de sortir une série sur Netflix.
Mm. Ouais.
Puis il y en a un autre aussi.
Mais, en fait, ça va dans les deux sens parce que t'as aussi.
C'est une mini-série d'une certaine façon. Que,
ouais, c'est ça. En fait,
ils ont testé le concept sur.
C'est vrai. En fait, je suis en train de mélanger tout, mais c'est vrai que. On a eu plusieurs fois. Là, je viens de voir une mini-série qui s'appelle Ascension, un truc de sci-fi, de la chaîne sci-fi, qui a d'ailleurs été tournée à Montréal. C'est une mini-série en 3 épisodes, 1h30 chacun. Une heure et demie chacun, je ne sais plus. Et avec une fin clairement ouverte, c'est qu'ils laissent la porte ouverte à une possible saison, quelque chose qui vienne.
Ouais.
Un peu comme ils avaient fait avec la mini-série du reboot de Battlestar Galactica.
Tout à fait, ça a commencé par une mini-série.
Oui,
c'est vrai.
Moi, j'ai l'impression que c'est des formes en fait qui sont intéressantes parce que ça va comme
c'est une espèce de pilote de luxe.
Un rendez-vous.
C'est ça, pilote de luxe, c'est exactement ça parce qu'un pilote des fois c'est pas assez pour accrocher le monde, t'as besoin de 2-3 épisodes pour vraiment embarquer les gens. Là, tu testes la réponse puis là qui était tout de suite prêt à en faire d'autres.
Mais effectivement, c'est bon parce que tu vas développer dans la personne Galactica, c'était tellement incroyable.
Les mini-séries,
c'est cool les personnages.
Ouais.
Une mini-série de 4 épisodes, c'était super courant dans les années 80.
Ouais,
ça a comme un peu disparu.
C'est vrai qu'il y en avait plein. Il y avait les trucs, là, des trucs de romantiques, là, genre l'amour en héritage. Oh. Comment elle s'appelait cette actrice-là? Il y en avait une. Non, c'était pas dans l'amour en héritage, mélange. Elle a joué dans un James Bond, elle en faisait plein des mini-séries, là. C'est, en tout cas, je vous dirais le nom, vous diriez « Ah oui, elle! »
Qui est Jane Seymour.
Jane Seymour! Okay. Elle en a fait plein de mini-séries, Jane Dr. Seymour.
Dr. Quinn, c'était... femme médecin.
En tout cas, c'est vrai que c'était la mode. Mais on devrait parler de V, je sais pas pourquoi on n'en parle pas. Là, on parle de tout ça d'affaires, on est comme genre « Bon, V! »
Je sais
tourne
pourquoi.
Autour des pots.
Mais en fait, on a peur de dire qu'on est déçu de l'avoir revu.
Mais en fait,
c'est vrai que c'était pas un buzz. Là. C'est pas comme réécouter Alien qui... Même époque, même plus vieux.
Qui vieillit pas du tout.
Ça vieillit pas.
Alors que là, je pense que c'est pas que c'est devenu mauvais, c'est juste que ça a tellement mal vieilli à plein de niveaux. Mais moi, les effets, à la limite, je suis capable de saquer que, bon, OK, budget pour budget, époque, machin. Mais la façon de raconter une histoire en série a tellement évolué depuis ces années-là. J'ai l'impression, en regardant ça aujourd'hui, qu'il y a des failles de scénario, qu'il y a des points de vue qui manquent, qui fait que j'ai l'impression que des fois, il y a des affaires qui sont pas claires, il y a des affaires. Comme le point de vue dans toute la première mini-série, les 2 premiers films d'une heure et demie, tu vois jamais à peu près le point de vue des visiteurs. Puis tu vois pas la réaction du reste de la planète. Tu vois juste un très petit groupe réagir à ça.
Mm-hmm.
Puis ça me semble que ça manque à un moment donné. Puis c'est ce genre de choses, d'erreurs, on dirait, qu'ils font plus aujourd'hui. Puis c'est comme s'il y avait juste 20 humains sur la Terre. Puis that's it.
Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai reproché au remake de V de 2009, là. C'est que, OK, ils avaient plus de moyens, ils avaient des plus beaux effets spéciaux que même je trouvais so-so, là. C'était pas... Il y avait un peu trop d'écran vert, là. Ça se sentait beaucoup trop.
Mm-hmm.
Tu sais, ces genres de scènes où tout est en écran vert. T'as l'impression qu'ils se promènent dans de la bouillie digitale, là. Ça me dérange, franchement. Mais ce que j'ai apprécié dans la série originale par rapport au remake, c'est qu'au moins, t'as un peu l'impression qu'il y a une résistance qui s'organise avec du monde. T'sais. T'as un groupe de gens, alors que dans la nouvelle série, ça tourne toujours autour des mêmes 4 personnes. T'as le journaliste, l'agent du FBI, t'as un gars qui est une espèce de mercenaire.
Parce que tout le budget est allé dans les effets spéciaux.
Ouais.
Non, je veux dire, t'as comme 5 personnages. Ils te parlent tout le temps de la 5e colonne, de la résistance, machin, les poches de résistants, nanana, que tu vois jamais. Donc, tu as l'impression qu'ils sont seuls au monde. Tu sais, et ça, c'était vraiment... tu sentais pas l'espèce de mouvement de résistance. Alors que là, au moins, tu sais, il y a du monde. Il y a des extras. Tu sais, il y a des figurants.
Quand les extraterrestres débarquent, il me semble que juste de voir la réaction qu'il y a partout dans le monde. Au pire, si tu passes juste, je sais pas, là, 3 minutes, 5 minutes par épisode, à juste voir qu'est-ce qui se passe à Rio de Janeiro. Y a-tu des manifestations dans les rues? Y a-tu du monde qui capote dans d'autres villes? Là, on est dans une ville, on sort jamais de là. Tu suis principalement le groupe de résistance pour ceux qui suivent les aliens. C'est tellement life-changing pour l'humanité quand les extraterrestres débarquent. Tu veux voir aussi à quel point les gens s'en doutent pas qu'il y a un poteau rose. Parce qu'ils te le disent tout le temps, genre, oh, la majorité des gens ne sont aperçus de rien. Mais j'aimerais ça le voir. J'aimerais pas juste... Tu sais, le fait que tu me le dises, j'ai l'impression que c'est comme si tu m'amenais plus dans un téléroman que dans une vraie série de fiction. Mais parce que tu n'as pas les moyens ou tu as peur de me le montrer. Je sais pas, il faut que tu me le dises, puis je comprends.
Mais dans le contexte de l'époque, là, c'était... il y aurait peut-être des exceptions, mais il me semble que même... Peut-être que c'est vrai que les téléséries étaient un peu mieux en général, mais c'était quand même grosso modo du téléroman. Je veux dire... C'est quoi les bons shows là, de l'époque?
C'était, c'était naïf, nombriliste. Puis,
ben, dire, c'était l'époque, toujours c'est l'époque de... avant. Dallas, c'est la base de Dallas Dynasty. Mais même Dallas, c'était considéré comme ce qui avait été meilleur.
C'était un téléroman à gros budget filmé en pellicule. Là,
c'est ça.
Des costumes et des châteaux. Là.
C'est vraiment un saut de Dallas.
Ah oui, clairement. Mais c'est ça, on est d'une époque.
C'est un soap bien écrit, mais c'est un soap.
Tu sais, c'est le soap qui a été comme la première version des séries télé. Fait que tout ce qui était des séries un peu plus sérieuses, un peu plus dramatiques, était toujours un peu des dérivés des soaps au départ. J'imagine dans l'évolution de la chose. Avant de devenir une nouvelle façon. Tu sais, avant qu'ils aillent chercher la façon de raconter des histoires du cinéma, qui est ce qu'on voit aujourd'hui.
Moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je pense que, je pense pas. Je pense que la façon de raconter des histoires, c'est le jour que la télésérie s'est affranchie peut-être même du cinéma d'une certaine façon. Parce qu'ils ont développé les personnages sur une beaucoup plus longue série. T'sais, avant, ils avaient de la misère. Les personnages là, que tu regardes dans les téléséries de l'époque sont aussi superficiels qu'au cinéma. Sauf que les histoires sont moyennement intéressantes.
Oui, ils n'évoluaient pas. C'était, MacGyver est toujours comme ça.
Toujours
c'est
MacGyver.
Ils changent jamais.
Même dans ils sont victimes de ça. Le reporter, le caméraman, là, qui est le personnage principal... qui est un douchebag de ces années-là, il évolue pas deux secondes. Il est tout le temps aussi méprisant, aussi chiant, aussi macho.
Mike Donovan. Ah, quel nom.
God, quel monstre.
Joué par Mark Singer. Et
quel cast, ouais. Mark Singer.
Il se prend justement pour MacGyver, mais il l'a pas pendant tout.
Ouais. Non, mais il est là, tu comprends, pour soutenir... Tu sais, c'est quoi la toune, là? Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, comme c'est difficile. C'est genre, il est là pour... Vraiment, je veux dire,
c'est
tu es capable.
C'est qui chantait cette niaiserie? C'était un groupe français?
Moi, c'était un groupe français, mais c'est vraiment un truc de l'époque, là, tu sais.
Tellement niais, ce truc-là.
Mais... La laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une femme libérée.
La laisse pas tomber, Juliette.
C'est facile.
Oh, pitié.
Mais c'est vraiment le feeling de la série, là, tu sais. Mais en même temps, c'est cute, parce que... À l'époque, ce personnage-là féminin qui se pose des questions puis qui se dit « Je dois être un leader, mais je suis pas un leader », mais qui est intelligente, tu sais, c'est une fille, etc. Ouais. C'était ça, les filles de l'époque. C'était vraiment ça. C'était les questions que t'écoutais des Jeannette Bertrand puis que les femmes se posaient. Puis t'avais... Tu sais, aujourd'hui, on n'imagine pas à quel point c'était normal d'être macho, là. Tu sais, à quel point une femme avait pas une promotion parce que c'était une femme, tu sais, qui était même pas... évaluer, c'était pas... Tu sais, maintenant, on parle encore que des différences entre les sexes, mais c'est toujours au niveau du subconscient, là. C'est jamais... Il y a jamais un cas qui, consciemment, est en train de se dire « Hm, c'est une femme, je ne lui donnerai pas la promotion. » Tu sais, à l'époque, c'était ça qu'il pensait, tu sais. « Hm, c'est une femme, elle pourra pas, tu sais. »
C'est pas si loin que ça.
Pas assez
c'est 30 ans en arrière.
C'est ça, mais c'était... J'ai moi, je m'en rappelle.
J'écoutais ça avec ma blonde, puis elle regardait justement ce personnage-là féminin, qui... C'est quoi son nom?
Juliette.
Elle a trippé, elle disait « Hey, mon Fake Dieu, man. À cette époque-là, il y avait déjà des personnages féminins qui essayaient de s'affranchir. » Elle était comme « Ah ouais, je pensais que c'était plus récent. »
C'est vrai.
Ah ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la norme, là, tu sais. Mais il y a une couple d'exceptions à cette époque-là qui ont peut-être un petit peu pété le moule, tu sais, justement, Ripley.
Ben, Alien.
Ça, à la télévision, mais bon, c'était pas...
Ripley, c'est devenu le symbole, c'est entre elle et puis Sarah Connor, c'est un peu les deux...
Sarah Connor, mais c'était pas... si constant que ça. Tu voyais ça une fois de temps en temps, puis ça surprenait les gens, puis c'est devenu de plus en plus...
Faut faire attention, parce qu'il y a toujours eu des personnages féminins forts. Tu vas reprendre Vivian Leigh qui jouait dans Guns with the Wind.
C'est vrai.
C'est l'histoire d'une femme qui va, comme, à travers une grande histoire romantique, s'affranchir, puis comme de découvrir sa nature. Mais là-dedans, c'était comme, je pense que c'est le côté... c'est ça, ça allait quand même dans le sens d'un petit peu un côté féministe, dans le sens qu'elle est professionnelle, tu sais, puis c'est pas tellement sa force de caractère qui se développe, mais c'est vraiment tout axé autour du « est-ce que je peux? Oui, je peux! » Il y avait comme un message. Mm-hmm. En fait, il y a un message à bien des niveaux dans cette série-là. On est à l'époque, juste avant la chute du mur, là. La chute du mur, c'est en 85. 89, t'as raison. Mais c'est quand même pas longtemps avant, on est d'accord, c'est pas longtemps avant. Donc, c'est la fin du communisme à l'époque.
La fin de la guerre froide.
La fin de la guerre froide. À l'époque, tu sais, il y avait eu pas longtemps avant le Day After, qui était une espèce de... une autre mini-série sur une bombe nucléaire qui
est... Ah ouais, c'est vrai.
C'est horrible,
ça,
cette mini-série-là. Mais c'est un peu plus tard, ça. Non, je dis avant, c'est un petit peu plus tard, ça. C'est venu en 85, 86, The After. J'étais à Montréal quand ça sortit. Mais c'était dans une espèce de pseudo-paranoïa des communistes qui tenait plus tout à fait la route, parce que là, les gens commençaient à se rendre compte que hey, ça fait longtemps là, qu'on nous dit qu'il va y avoir une bombe nucléaire.
C'était la même année, The Day After.
Ah ouais, c'était la même année, OK. Ouais. En 83?
83, mais...
ouais. OK, je pensais que c'était un petit peu plus tard.
Jason Roberts, Joe Beth Williams. C'est bizarre. Oh my God, faut que je revoie ce truc-là. Là.
J'ai aucune idée de quoi.
Là, je trouve ça bizarre que c'est la même année parce que je suis sûre que j'étais à Montréal quand c'est passé de Daphne.
C'est ce que dit IMDb.
Et IMDb ne se trompe jamais.
Là, faut que je confirme. Mais c'est parce qu'il y a peut-être plusieurs Day After. C'est-tu le bon. Ah, ouais,
80... j'ai trouvé The Day After. Il n'y en a pas 36 à cette époque.
Je suis d'accord, The Day After. Mais en 83, je n'étais vraiment pas à Montréal. Pourquoi j'ai vu ça? Ah, peut-être qu'ils l'ont rejoué.
Ouais, ça a été rediffusé après, certainement.
Bref, t'étais dans une espèce d'époque très... avec, c'est ça, les visiteurs qui viennent, ben c'est le fantasme du méchant qui vient, mais il ne peut plus être communiste. Parce que les communistes sont connes.
Si tu regardes comme il faut les codes qu'il y a là-dedans, là, c'est, oui, il y a des références aux communistes puis aux Russes, mais c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale puis les nazis. Plus que...
Oui, clairement.
Tout à fait.
C'est gros comme le bras. Ouais. D'ailleurs, ça, les posters de propagande. Ouais, tout ça,
Russes avaient la propagande eux-mêmes.
Oui, je sais, ça a été repris après, mais tout ça a été inventé. C'est des symboles clairs qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale.
Les posters, c'est beaucoup plus russe. Les posters, c'est de la propagande qui ressemble à russe.
Ben, ça
non, c'est la jeunesse. La jeunesse hitlérienne aussi.
Ouais, la jeunesse hitlérienne.
Mais en fait, c'est en lisant
les visiteurs qui ont comme tout pas de cerveau, qui sont blonds, puis qui sont, tu sais, en plus, le personnage principal, c'est comme race aryenne numéro un, c'est carrément.
Ouais, ben Diana, non.
C'est lequel qui fait un power trip?
Non, il y a des noirs aussi, ils sont comme.
Non, il y a des
noirs. Ouais, mais quand même, c'est un mélange de symboles. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup plus de symboles de la Deuxième Guerre mondiale. Mais plusieurs symboles.
Moi, je pense que c'est un symbole de fascisme puis de totalitarisme.
Oui,
ça, c'est complètement avoué.
Le totalitarisme.
Ça, c'est complètement avoué par. Que c'est une référence à ça.
Au nazisme?
Ouais, je sais pas si vous avez lu le trivia, vous avez fait de la recherche, mais. À la base, Kenneth Johnson avait proposé au network une série qui s'était adaptée d'un bouquin et ça parlait justement de la montée du nazisme en Allemagne, et les jeunesses hitlériennes et tout ça. Et puis les networks ont dit non, il n'y a personne qui a envie de voir ça, là, ça va faire chier tout le monde. Ça surfait sur la vague Star Wars machin, il s'est dit pourquoi alors ça serait pas des extraterrestres qui arrivent? Et puis là, ouais, c'est cool votre truc. Et en fait, c'est une histoire de fascisme, ouais, c'est ça.
Ça, la jeunesse hitlérienne, en fait, c'est ça, c'est l'humain qui vient dans les rangs.
Qui devient collabo.
Qui se fait un power trip de la mort.
Non, mais c'est clair qu'il y a toute une référence à la jeunesse hitlérienne quand il recrute le jeune.
Ouais. Il y a une famille juive. En plus, il y a des références. Il y a les
familles juives.
Dans la famille juive, avec l'autre qui dit.
Quand t'as
18
ans,
puis
qu'on t'a caché, tu t'en rappelles pas, mais là, il faut faire la même affaire pour nos amis.
Je veux pas qu'on revive ça, machin. Donc, ça c'est complètement avoué. Alors, ça je le savais pas à l'époque, j'avais aucune idée, j'avais pas capté cet aspect-là en fait de la chose. Puis, ça c'est ce qui a rendu aussi la série intéressante, c'est comment il y avait ce côté-là, cette référence-là.
Anecdote intéressante, mais pas intéressante, mais vous pouvez rire de moi. Le vieux grand-père, là, qui fait le speech sur le fait que lui était dans un camp de concentration avec sa femme puis qu'ils ont sauvé leur enfant, machin. Ouais. Je sais pas si vous l'avez regardé, de quoi il a l'air, mais moi, tout de suite, j'ai fait il me fait penser à quelqu'un, Puis là, j'essayais de penser dans quoi il a joué récemment.
Récemment
dans une série.
Et moi, je vais te dire une autre anecdote sur ce bonhomme-là, parce qu'on avait un nom pour lui quand on était petit.
Tête d'œuf.
Ouais!
c'est un conehead, là. Tu aurais pu jouer dans le film avec Dan Aykroyd aussi. C'est ça qu'on devrait faire la prochaine fois, conehead.
C'est pas un acteur italien, non? Il a un nom italien.
En fait, mais je me suis complètement gouré, mais j'étais sûr que c'était Salamanca dans Breaking Bad. Il y a un peu le même genre de vieux pépé grincheux de face.
Ah, c'est vrai, mais
il
non.
Il ressemble, hein? Mais c'est pas lui.
Ouais, moi, ce que je trouve amusant, c'est que
Kenneth Johnson,
c'est lui qui a écrit presque tous les Incroyables Hulk, la série télé.
Ouais.
Il était, très impliqué. Puis tu sens, je trouve, dans V, cette espèce de production des années 70, début 80, le Hulk, Bionic Woman, Bionic Man, une espèce de trucs dramatiques suivis de scènes d'action vraiment poche, là, tu sais, où est-ce qu'il y a comme une petite musique pom-pom.
Il essaie de créer du mélodramatisme, mais ça marche.
Non, mais il essaie de créer de l'action mélangée, mais c'est comme...
Attends, j'essaie de retrouver le nom de cet acteur, là. Ah voilà, Leonardo Cimino, c'est pas italien comme nom ça?
Ouais,
Cimino, voilà.
Ça les Italiens juifs, ça existe, hein, il y en a pas mal.
Ah ouais, Leonardo Cimino.
Non, mais
il est décédé en 2012.
Ouais.
Ah, il était dans Dune.
Mm-hmm. C'est le docteur de... Les Harkonnen.
Oh, Before the Devil Knows You're Dead, c'est un très bon film ça. Dans Waterworld, ok, d'accord. Okay. Non, ça, okay. Ça,
on veut l'oublier, okay. Celui-là.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler de la fin ou.
Ouais, ben parlons-en.
Oh mon Dieu.
Ouais, ça soulève... Laquelle fin, celle avec les, la toxine rose?
La fin avec. Oh, avec
ouais. Ça va répandre dans l'une. Dans... Oh, c'était même pas crédible. Ben, d'un point de vue scientifique, je voulais juste mentionner.
Ben,
que...
ça...
c'est terrible.
Déjà qu'il y a un mélange des races, là. Moi, je trouve toujours fascinant.
C'est impossible!
Ben, ce que je trouvais pas pire, c'est que dans les Star Trek, comme tu pouvais avoir des bébés vulcains puis des bébés, tu sais, comme qui pouvaient mélanger les races,
ouais.
Ils ont fait tout un épisode qui ramenait les vulcains, les hommes, puis les...
Les quoi? Les Romulans? Non, les...
Ben, les Romulans, c'est des vulcains, là. C'est comme...
Ouais, ouais, oui. C'est
mais les autres, là, les...
Je
peux pas croire la langue. Les Klingons. Aïe, 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 on va me couper les doigts dans la convention geek la prochaine fois que je vais y aller.
50 coups de fouet.
Donc, les Klingons, il y aurait comme eu un ancêtre commun. T'sais, c'est comme un peu tiré par les cheveux, mais tu sais, comme c'était l'idée.
Bon, moi, il y a l'explication. Ben,
c'est juste parce qu'ils savent. Ce que de drôle avec les Star Trek, c'est que leurs fans, ça reste des geeks finis. Là, puis c'est des gens qui connaissent leur affaire, puis sont vraiment fatigants. Là, puis il y a des gros débats. Ils disent comment c'est possible qu'ils peuvent faire des bébés, ta. Mais là, là-dedans, c'est des lézards. Là. C'est même pas.
Ouais, aucune chance.
Puis tu sais, en plus, là, comme elle a comme des symptômes de femme. Tu sais, c'est juste. Tu te dis. Oh my God, j'aimerais bien faire un effort qu'on appelle suspension of disbelief, penser que c'est comme fantastique et tout, mais c'est parce que j'aime pas ça que tu me prennes pour une épaisse non plus, là, ça a juste pas d'allure, là, tu sais.
Mais
comme...
oublie pas, on se ramène dans une époque où les gens avaient pas besoin de se faire tout expliquer. Ouais. Quand ils voyaient les affaires de même, ils embarquaient sans poser de questions.
Ouais, c'est vrai. Après, tu comprends pourquoi il y a des gens qui croient pas au réchauffement de la planète, là.
Ouais, c'est ça, c'est la même génération. C'est...
Ouais. Mais ouais, non, ça c'est vrai que toute cette histoire-là, déjà tu te dis.
Il n'y a même pas une tentative là, pour mélanger, tu sais, je dis pas.
En fait, il y a une chose qu'ils ont dit dans toute la série, qui passe même pas proche de l'expliquer, mais qui semble être la seule excuse, c'est qu'à un moment donné, ils disent on a eu à peu près la même évolution sur notre planète.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça, ils savent même pas encore que les visiteurs, c'est des reptiles. Ils ont juste dit ça, pis c'est plein de sous-textes, mais ça explique rien. C'est juste que ça a été dit. Il y a rien d'autre.
Ouais, mais
je me demande si dans la série de 19 épisodes que j'ai pas re-regardé cette fois-ci, que je me rappelle la petite, je pense que Mané a grandi beaucoup trop vite.
Ben oui, elle rentre.
Puis qu'elle se transforme en reptile, elle aussi, puis qu'elle a Mané dans un cocon, puis que je me sens que j'ai des vagues souvenirs.
De... Oui, dans un cocon, puis elle sort, puis c'est une jeune homme.
Voilà, puis elle est toute belle, c'est une belle blonde qui sort. Voilà. C'est
ouais,
ça.
C'est ça. Exactement.
Au début, t'es là, ça va être dégueu et tout. Ben non. C'est donc.
Mais c'est à poil au moins.
Hein? Ben non, il y a une couverte qui a amené juste pour la prendre. C'est vrai, c'est ça, mais en fait, j'ai remarqué, j'ai exactement pensé comme toi à sortir du cocon. Mais convenient, il savait pas ce qui allait se passer, mais il venait avec une couverte, tu sais. Puis là, il peut l'enrouler dans la couverte. J'ai comme. Voyons, tu peux même pas cadrer en dehors. Là. C'est parce que ça aurait été tellement inconcevable qu'elle soit tout nue, même hors cadre. Tu sais, il y avait vraiment une couverte. En tout cas, j'ai trouvé ça très drôle.
Ah, c'est vrai que vous savez que dans la nouvelle série. Diana, donc Jane Butler, là, qui joue la méchante, qui joue Diana, elle revient dans la nouvelle série, elle joue la mère de. Elle s'appelle Anna, ce coup-ci, la méchante, tu sais, qui est jouée par Morena Baccarin de Firefly, de Homeland.
Puis dans la nouvelle série, c'est.
Voilà, Firefly, voilà une série qu'il faut qu'on
fasse. Dans la nouvelle série, c'est comme les visiteurs qui reviennent ou c'est comme la même. C'est pas un reboot?
C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un beau jour, tout à coup, tu as des vaisseaux géants là, qui arrivent au-dessus de toutes les grandes capitales.
Mais ce n'est pas la suite de l'ancienne série.
Non, pas du tout. Ben, en fait, ils font un espèce de lien comme ça. Là. À vrai dire, j'ai peu de souvenirs parce que ça m'avait un petit peu... Au bout d'un moment, ça me gonflait un peu. Là. J'ai vu les deux saisons, mais à la fin... C'est que tout à coup, à la fin, ils ont commencé à rendre les choses un peu intéressantes. Mais tout le long, c'est lent, ça traîne, ça n'avance pas. C'est des conspirations, des machins, puis l'autre qui veut récupérer sa fille qui est dans le truc. Enfin, bref. Et donc c'est ça. Et puis ouais, et à un moment, tout à coup, bah alors, c'est du fan service, clairement. T'as Jane Butler qui arrive, qui est comme la grand-mère, t'sais. Enfin, la mère de la méchante. Mm-hmm. Qui est contre la méchante dans le sens où elle est pour aider les humains. Enfin, elle veut rien aux humains, là, elle est gentille.
Clin d'œil, hein.
Alors que Anna, la méchante, elle est vraiment méchante jusqu'au bout. Là,
il me semble qu'il y a une mode quand même de faire ça quand ils font des reboots ou des remakes, de plugger un des comédiens de la série ou du film original à quelque part, sans que ce soit un rôle important, mais juste au moins qu'il y ait un genre de clin d'œil.
Dans Battlestar Galactica, c'était celui qui faisait le chef de la résistance, c'était lui qui était Apollo, c'est ça?
Il était Apollo.
Non, Starbuck, c'était une espèce de blonde.
C'était Dirk Benedict, mais ils l'ont pas eu.
Non, Starbuck, c'était un gars dans la série originale.
C'était un gars, ouais.
Ouais, c'était un gars dans la série originale.
Puis il s'est devenu, Bref.
Ouais, voilà, c'est juste le petit clin d'œil, là, avec la nouvelle série. Mais bon, je la recommande pas du tout, la nouvelle. C'est pas trop intéressant.
Par curiosité de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça.
Bah, écoute, regarde, t'sais, au début, tu dis, ah, bon, pourquoi pas, c'est marrant, machin.
Mais là, ça fait 6 ans, fait qu'on est dû pour un autre reboot, on pourrait essayer de faire
Mais moi, je sais pas si je trouve la prémisse si intéressante que ça, c'est vraiment qu'étaine, là. Ils arrivent, ils veulent nous bouffer. Moi, ça, c'est assez amusant quand même, on est de la bouffe.
C'est comme Soylent Green.
Ouais.
Oh, spoiler!
Il y a un petit côté Soylent Green, ouais.
Non, Soylent Green, c'est meilleur que ça, d'une certaine façon. Faut le faire, ça.
Ben, ça a mal vieilli, ça aussi, hein?
Non, je pensais que ça a mal vieilli, moi. Je pense que ça...
Un petit peu. Ben, le scénario est toujours aussi bon, mais...
Ben, écoute, moi, je l'ai revu une couple de fois,
le scénario, il est bon. C'est plus le comédien, de la façon de filmer.
Ouais, c'est ça. Le jeu d'acteur, la mise en scène, tout ça...
Ben, je sais pas.
C'est ça qui a vieilli. Mais c'est vrai que le scénario est très, très bon, Soylent Green.
Il y a quelque chose d'intéressant. Soylent Green, ça serait un bon remake à faire.
Ouais. Ça, sur ma liste. J'ai une liste de 10 films où j'aimerais faire des remakes et je pense qu'il est dessus.
En parlant
de remake, vous avez vu qu'il y a une série Westworld qui arrive?
Ah, c'était bon, ça, Westworld! J'aimais ça! Tu n'as pas vu ça de Westworld? OK, on fait Westworld le prochain.
Avec Yul Brynner.
Ah non, on fait juste des vieilles affaires. Faut
mais pourquoi pas?
On est dans une série vieilles affaires, là. Faudrait pas faire plus récent.
C'est un classique, quand même,
Westworld. Mais on pourrait faire Westworld après le prochain qu'on a dit qu'on pourrait faire, là, qui était...
On verra ça.
Mais t'as pas vu ça, Westworld? C'était excellent, c'était jouissif. Moi, j'aimais ça, j'écoutais ça de plein de fois. Mais c'était simple.
On peut-tu refaire Battlestar Galactica? J'ai déjà envie de le revoir.
On
pensait refaire la fin. On est déjà en train de parler de le prochain, là.
Hey, on a de la misère à remplir notre épisode de choses profondes sur V, parce que profond. OK, la guerre contre les scientifiques. Qu'est-ce que vous avez pensé que les extraterrestres essaient de discréditer les scientifiques? Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais comme prémisse.
Non, c'était fait de manière simpliste.
Mais c'était pas bête.
L'idée, non, c'est pas bête
c'était
du tout.
Pas bête.
En fait, la résultante de l'idée que ça donne avec les scientifiques qui font vraiment la résistance à cause de tout ce qui a été fait par les visiteurs, c'est une bonne idée, mais au début, c'est faible de faire croire à la population que tous les scientifiques, c'est des gros méchants.
Mais c'est ce qu'ils ont fait.
Ça fait aucun sens.
Mais c'est ce qu'ils ont fait aux Khmer Rouges, là. Ça, c'était très d'actualité. Les Khmer Rouges, c'est ça qu'ils ont fait.
Khmer Rouge, excuse-moi, il manque un bout d'histoire.
Grave, Cambodge, génocide, des millions de morts. Comme des millions.
Où ça? Dans quelle
guerre?
Cambodge. OK, j'étais trop jeune.
Ouais.
Je ne l'ai pas appris à l'école, celle-là.
Ah bon?
Waouh! Nous autres, on a vécu de ça, là. C'est comme il y a des films, là, où est-ce que tu vois des rivières remplies de cadavres, là. C'est comme fucking fou, là. Les Khmer Rouges, ce qu'ils ont fait, ils ont comme. Tu sais, le Cambodge d'aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. Puis il y a vraiment eu un grave génocide. Puis là, c'était des communistes, comme communistes, un peu comme Corée du Nord. C'est un peu le même principe.
Je suis pas épais, là, tu vas-y.
Non, mais dans le sens extrémiste, là. C'est pas comme Cuba. Il y a des communistes comme Cuba, il y a des communistes comme la Russie, puis il y a des communistes comme la Corée du Nord. Autrement dit que c'est un culte qui était à l'extrême.
Ouais.
OK? Puis, mais c'est ça qui a commencé à pas savoir c'était quoi.
Okay, dis-moi, je suis okay, Cambodge. Quelle année?
Attends, dans les années 70.
Mais ça, j'étais pas né.
C'est dans les années 70, ouais.
Puis ce qu'ils faisaient, non, mais laisse-moi finir. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les gens qui étaient les intellectuels, puis les gens qui avaient de la connaissance, puis ils les tuaient en premier. Ils les amenaient dans des camps de rééducation, puis ils les tuaient.
C'est pas pareil. La différence, ce que je dis, pourquoi je trouve que c'est pas crédible, c'est parce qu'ils font croire à la population. Par quelques petits messages qui sont mauvais. Fait que donc, c'est la population qui se retourne contre eux, non pas.
Oui, mais c'était ça aussi.
C'était ça aussi.
Ben oui, il disait que les intellectuels étaient.
Fait que tout le monde les dénonçait. Oui,
les gens les dénonçaient.
Ben, chaque fois qu'il y a un génocide, c'est un peu ça qui arrive. Là, quand ils ont dit à tout le monde en Allemagne que les Juifs étaient pas bons, tout le monde a manié son.
Non, les Allemands,
à force de propagande.
Les Allemands, les Juifs, c'est sûr, les Juifs, mais les scientifiques, les gens intelligents, l'intelligentsia, a été pris à la recherche militaire, là. Puis il y a eu toute une histoire autour. Ben, par exemple, un des plus grands scientifiques de l'histoire qui est Heisenberg. Il a travaillé pour les nazis, pour la bombe nucléaire, le programme nucléaire nazi. C'est toujours, c'est ambigu à savoir, aujourd'hui, ça serait une super bonne histoire, ça serait un super film, parce que c'est ambigu à savoir s'il était pour ou contre. Là. Ils ont comme mis un espion ou un micro dans sa cellule pour voir ce qu'il disait, puis c'est pas clair. Parce que lui, il a dit qu'il, en fait, essayait de saboter le programme, tu sais, pour s'en sortir.
Donc, c'est un nouveau podcast où on parle histoire.
Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur V. Donc là,
Mais ça soulève aussi.
Quand même des références.
Il y avait un lien très clair avec la Seconde Guerre mondiale.
Mais moi, je pense que ça ressemblait un peu plus au génocide du Cambodge à ce niveau-là, où est-ce qu'ils attaquaient l'intelligence de la planète pour affaiblir les êtres humains. Puis ça, je trouvais que c'est une bonne prémisse.
Ouais. Pas grand-chose qui a changé aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu fais?
Les génocides passent plus, mais d'attaquer la crédibilité de gens de l'élite intellectuelle ou d'essayer de garder une population la plus épaisse possible pour le gouvernement, même dans une démocratie, entre guillemets, ça a toujours ses avantages. Ouais. Plus ton peuple est épais, plus tu peux les contrôler puis faire ce que tu veux.
Oui, mais on est dans une époque où est-ce que les gens sont aussi un peu prétentieux. Ils ont Internet sur le bout des doigts, puis ils s'imaginent qu'ils sont intelligents parce qu'ils peuvent aller sur Wikipédia, lire toutes sortes de niaiseries, puis des fois, c'est même pas Wikipédia. Puis il n'y a plus le respect, je trouve, de gens, tu sais, genre comme de gens qui ont passé, mettons là, t'as un docteur qui a passé 30 ans à étudier son métier puis qu'il pratique tous les jours, un gars va dire j'ai fait 3 mois de recherche sur internet puis je sais plus que ce docteur là, tu sais, puis évidemment c'est tout dévendu aux compagnies pharmaceutiques ou ben on peut dire ça des docteurs, on peut dire ça des gens, ça, le même débat pour l'environnement, réchauffement de la planète. Il y a toujours une facilité, je trouve, à discréditer quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a quand même une sorte de crédit de son expertise. On dirait que l'expertise a plus de valeur aujourd'hui.
Mais ils ont fait un reportage là-dessus, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, peut-être à Radio-Canada, ils ont vraiment discrédité les experts de façon super méchante en disant la plupart des experts ou ceux qui s'appellent experts aujourd'hui ont pas, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu as le titre d'expert? C'est un titre qui te donne quand tu vas faire une entrevue à la télévision pour parler d'un sujet ou quand tu vas écrire, ils vont te citer dans un article d'un magazine X. Mais expert, ça veut rien dire. Tout le monde peut se certifier expert, tout le monde peut se dire expert. Puis là, ils ont fait une étude par rapport à, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé leur échantillonnage, j'étais douteux un peu, là. Ils disaient 4 experts sur 5 se trompent.
Parce qu'ils
parlaient des sondages aussi, là, de quand il y a des élections, des trucs comme ça, que la plupart des sondages se trompent. Ils mettaient tout ça un petit peu dans le même panier. Parce qu'à quelque part, il y a comme une psychose par rapport au fait de t'es supposé connaître ton sujet sur le bout des doigts, ça veut pas dire que t'as raison pour
OK, mais c'est parce qu'il y a une différence, parce que là, tu parles de prédiction. Le problème, c'est la différence.
Oui, les prédictions des experts. Exactement.
Tu parlais de prédictions. Le problème.
Quand on parlait de réchauffement climatique.
C'est pas une question.
C'était des prédictions, pareil.
Pas vraiment. Pas tout
c'est
à fait.
C'est basé sur de la hard science, mais ça reste des prédictions.
Oui, mais là, il y a
pas. On parle d'affaires qui vont se passer dans 50 ans. C'est des prédictions.
Effectivement.
Les résultats d'élections, c'est des prédictions, mais on s'entend que c'est plus facile. Bon. Bref.
mais c'est intéressant. En fait, effectivement, on pourrait passer un podcast à discuter de qu'est-ce qui rend quelqu'un crédible. La différence entre des prédictions, le scientifique est aussi un être humain. T'as des scientifiques qui ont dit des choses complètement ridicules.
Les scientifiques
atroces.
Qui se contredisent pourtant sont aussi intelligents l'un que l'autre puis ils parlent la même affaire.
Oui, mais il y a des mais la science fonctionne avec certains codes qui règlent sont peu connus du grand public. Autrement dit, ce qu'on appelle une sorte de consensus scientifique, comme Einstein, OK, c'est probablement un des scientifiques les plus intelligents qu'il a jamais eu. Quand il est arrivé avec ses prédictions, tout le monde dit c'est un malade. Mais il a dit j'ai raison, puis c'est l'expérience que vous allez faire pour prouver que j'ai raison, OK? Puis il a écrit 3 articles, puis les gens du prix Nobel ont trouvé ça génial, ces articles, mais 2 de ces articles qui étaient les plus révolutionnaires étaient tellement élevés qu'ils ont dit on peut pas lui donner le Nobel pour ça, ça n'a pas d'allure, ça sera pas vrai. Donc, ils ont donné un prix Nobel pour son article le moins révolutionnaire, tu sais. Puis les 2 autres se sont montrés vrais. Donc c'est un génie, Einstein, là, puis ça s'est rarement vu dans l'histoire de l'humanité, un gars aussi brillant qu'Einstein. Ben, il s'est trompé pour le Big Bang. Il s'est trompé. Les gens qui prédisaient le Big Bang, lui, il était pas d'accord au début, puis il a embarqué dans la gang qui était contre le Big Bang, puis il s'est trompé sur la physique quantique. Mais la science va pas comme amoindrir tous les résultats d'Einstein puis dire que c'est un con parce qu'il s'est trompé. C'est ça le problème, c'est que ça fonctionne sur une sorte de vérité, un consensus des équations, puis je te prouve que j'ai raison avec une expérience. En gros, c'est ça. Mais les prédictions, c'est comme des hypothèses. Puis là, t'as des scientifiques qui sont des êtres humains qui passent sur des... C'est vrai, je fais une petite apologie de la science, excusez-moi. Là,
oui,
ça ne fera pas avec vie.
La prédiction, Marie-Louise, sur quand est-ce que les visiteurs vont arriver, toi qui es une experte en extraterrestres?
Très peu probable.
Je suis d'accord avec toi.
Très peu probable.
Ah, ouais. Michio Kaku aussi est d'accord avec toi.
C'est ça.
Moi, j'aime croire que... C'est déjà arrivé.
Tu sais ce que Spielberg a dit. Spielberg, qui lui est un grand fan de la visite des extraterrestres.
Oui, je sais.
Un jour, il a dit, écoutez, j'y crois plus, parce qu'avec tous les appareils qu'on a qui filment, tu sais, des cellulaires, caméras et tout, on les aurait vus, là.
Oh, c'est un peu simple comme explication.
Non, c'est une très bonne explication quand tu penses, parce que t'as le même. OK, mettons qu'à l'époque, tu avais 100.
Quand tu as de la technologie pour venir sur une autre planète, dans une autre galaxie, là, tu peux avoir un vaisseau transparent qui paraît pas, là, maintenant aussi. Stealth mode.
Oh my god, les Romulans?
Les
Romulans?
Non, les Prédateurs.
Non, c'est les
Prédateurs. Oui, c'est les Prédateurs.
OK, ça, c'est comme évidemment l'idée qu'ils viennent puis qu'on les voit pas. OK, mettons que ça serait les seuls extraterrestres qui viennent, ils sont transparents.
En fait, il y a une bonne raison pourquoi les extraterrestres, ils veulent pas venir nous visiter. Ça, c'est justement Michio Kaku. Moi, c'est un des gars que j'aime bien. C'est un expert en futurologie puis en science, puis un paquet d'affaires. Il est dans à peu près la trois quarts des émissions à Discovery Science. Puis si vous avez déjà écouté un show là, c'est sûr, vous y avez déjà vu à la face. C'est un vieux japonais avec les cheveux longs.
Moi, je sais, j'ai des livres de lui.
Il était cœurant.
J'ai en train de lire des livres de lui. Il est super cool.
Il dit pourquoi que les extraterrestres seraient pas venus nous voir, c'est que s'ils sont capables justement de venir jusqu'ici avec leur vaisseau spatial intergalactique. Ben, pourquoi ils viendraient nous voir, nous, qui sont si potents évolués par rapport à eux, à quel point ils sont évolués? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de venir nous voir?
Ben, je veux dire,
eux vont nous apprendre des choses, mais nous, on va leur rien leur apprendre.
Ben, attends, on fait des safaris avec des pingouins,
mais
là.
C'est ça, mais je veux dire, ça fait partie de l'exploration.
Est-ce que tu as une conversation avec des...
il ferait un safari où il...
Pourtant, je viens de dire qu'on fait un safari avec des pingouins. Vous remarquez pas les niaiseries que je dis des fois, là.
C'est pour ça qu'ils seraient invisibles.
On a juste bu une petite bière.
Oui, je sais.
Si on était un zoo, là, il viendrait invisible. On est capable de faire, pour les animaux, des vitres à double face, là, que c'est miroir d'un bord puis transparent de l'autre. On va pas à croire qu'ils seraient pas capables de venir ici sans qu'on s'en rende compte. Juste pour nous observer, pour triper, parce que c'est un voyage de famille.
Là, oui, mais OK, mais oublions l'effet qu'ils pourraient venir ou leur intérêt de venir. La réalité est que l'univers est vaste, que la vie est rare, puis que la distance à parcourir est très grande, puis qu'on n'a pas encore prouvé... On n'a pas encore prouvé que c'était possible de traverser cette distance-là pour une intelligence quelconque. Puis les intelligences qui seraient... quelle forme elles ont... Ben, en théorie, non.
Oui.
Ben, je veux dire...
Oui, t'écoutes pas assez de films de science-fiction.
Non, ben, parle-moi pas des films de science-fiction. Là, c'est pas de la théorie.
Juste créer un trou noir puis passer à travers. C'est super simple.
Non, ça marche pas de même. Un trou noir, tu passes pas à travers.
Event Horizon, là, ils l'ont fait.
Oh my God.
Dans Interstellar,
je vais te pitcher dans un trou noir, tu m'en reparleras.
Mais non, un trou noir créé et contrôlé par...
Oui, un trou noir créé et contrôlé. Un mini trou noir, à peu près gros comme ça.
Mais non, tu passes au
travers. T'as vu
un trou noir, là?
Un trou noir, ça peut être gros comme une balle de tennis.
Oui, je sais, mais
t'as-tu vu Interstellar, toi, ou pas? Pas encore.
Non,
si
non
ça
plus.
Se passe dans Interstellar, il existe un trou noir contrôlé.
On a manqué le
Il y a toutes sortes de théories sur les trous noirs, mais moi, j'aimerais quand même pas rentrer dans un trou noir à tout prendre.
Non plus,
là.
Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Non.
Je me ferais une copie digitale que j'enverrais dans le trou noir.
Un clone.
Moi, j'ai pas...
Caméra.
Une caméra, ouais, mais non.
Bon, revenons un petit peu à ce chef-d'œuvre de la science-fiction, de la télé, de la science-fiction des années 80.
C'est
sexy, non, mais ça...
Les lézards, t'es trop sexy?
Avec leur masque, non. Finalement, non. Mais c'est un sexy années 80, là, je veux dire. Tu sais, ils engagent des comédiens avec des gros cheveux, puis c'était les sexes symboles de l'époque. Fait qu'ils mettent leur face ou qu'ils enlèvent leur face. Si la fille dans Avatar a pas été sexy, il aurait pu faire une version des lézards de V sexy.
Ouais.
Mais c'est pas le cas.
Non. Mais par contre, quand ils sont couverts de peau, ils sont sexy. Diana est sexy.
Ben, sexy 80.
Ouais. Il y a la blonde. C'est dans la deuxième série où tu découvres qu'il y en a plein qui sont. Qui résistent aussi, ils sont contre les manœuvres de Diana. Ouais,
c'est dans Final Battle que tu commences.
Que tu découvres qu'il y a plein de visiteurs qui sont. Ouais, il y a une contre. Ouais.
Et puis dans Robert, qui sont contre elle, qui joue le.
Ouais, bon, lui, il joue un peu le niais.
L'idiot sympathique.
Ouais, l'idiot sympathique, c'est un peu facile aussi. Ça, c'était des clichés de ces années-là.
C'est Freddy, my God.
Ouais, c'est quand tu penses qu'il est devenu Freddy. Ouais, là aussi, il y avait un plan, le plan gratuit de la jolie blonde qui se déshabille pour refiler son uniforme à Mark Singer pour qu'il puisse s'échapper. Et genre, mais ça va jamais m'aller. Oui, mais le tissu est fait de manière que c'est extensible, machin.
Maintenant que je suis à poil, tire-moi dessus.
Ouais, oui.
Lui, il est comme, mais non, mais je peux pas faire ça, excuse-moi, mais il est... Non, je le dirai pas. Il est excité de la situation, il fait semblant qu'il ne l'est point. C'était gratuit, cette scène-là.
Ah, vraiment.
Mais je l'ai beaucoup aimé, quand même.
Ouais. Puis, mais bon, quand même des jolis petits efforts de scène d'action. Et, je veux dire, c'est cheap. Enfin, maintenant, on trouve ça cheap, mais pour l'époque, je sais que, bah, ouais, plus jeune, moi, je trouve
c'est
ça
quoi,
cool.
C'est quoi, à l'époque, des trucs d'action qui étaient pas pires à la TV, pensons-y?
Ben, MacGyver, justement.
Ouais, c'était tout.
MacGyver, j'ai pas suivi
ben, James
ça.
Bond, c'est quasiment un œuf télévisuel parce qu'ils ont tellement
passé. Non, James Bond, c'est du cinéma.
Oui, mais ils ont tellement.
Ben, sinon, c'était les séries policières, genre Starsky and Hutch et tout ça. Hein. C'était ça, c'était les scènes d'action.
Non. Les James Bond, pour moi, jusqu'à l'âge de...
Ah, tu les as tous découverts à la télé.
Jusqu'à GoldenEye, je les ai tous écoutés à la télévision. Pour moi, c'est des films qui existaient seulement dans une télévision, mais tu sais, c'est des films qui dataient déjà de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, peut-être pas 30 ans, là. Mais c'est des films qui repassaient aussi à TVA. Il y avait des festivals de James Bond à chaque année. Ils repassaient tout en boucle. Mais tu sais, tu faisais pas la différence entre une série télé puis un film qui passe à la télé quand t'es jeune. Donc,
c'est vrai.
Quand t'as 8 ans, là...
Mais en tout cas, j'étais très. Enfin, en mettant la série en route, là, ça commence, tu sais, avec cette scène au Salvador, ou je sais plus où, là, au Venezuela, je sais plus quoi. Cette scène d'attaque
quelque
du village,
part en Amérique
là.
Ouais.
Cette scène d'attaque super violente, là, du village sud-américain, là, avec les rebelles, machin. C'est hyper violente, et pour de la télé aussi, tu sais. T'as plein de monde qui meurt, des explosions partout, des hélicos qui explosent, enfin, bref.
C'est vrai, ça, c'était pas commun, hein.
Tu verras
pas ça dans Dallas.
Ça commence dans ta face, comme ça, là. C'était comme. OK.
Il y avait quand même des séries comme. Il y avait des séries, qui étaient pas pires aussi, genre avec les Romains, là, avec Claudius ou.
Je connais pas ça.
Masada. Ça s'appelle Masada.
Ça me dit quelque chose, mais là, comme ça.
La série de guerre, il y avait MASH à cette époque-là, même. Ça date de plus vieux que ça encore.
MASH, c'était une série de guerre, mais ça, c'était comme. Il y avait eu le film.
Ouais, mais la série, ça a duré des années.
Ouais. Mais c'était pas de l'action, c'est de la comédie.
C'était plus
de
la comédie, ouais.
Ouais, mais il y a eu quand même des scènes de guerre. Hein. J'ai jamais vraiment écouté. Dans le générique te laisse penser qu'il y a des scènes de guerre.
Non, c'est vraiment plus axé sur la comédie.
Les séries de guerre, il y avait Baba Black Sheep, là, tu sais, le.
Comment ça s'appelait? Vous sortez des références de fou.
Comment ça s'appelait, les moutons noirs? Les têtes brûlées, ça s'appelait comme ça en France, les têtes brûlées.
Ah. Ouais, ça me dit rien.
C'était une compagnie de.
Band of Brothers.
C'était pendant la guerre du Pacifique. Ça, c'est bien plus tard.
Ouais, non,
c'est...
J'ai rien dit.
Mais c'était génial, d'ailleurs. Mais non, c'était Baba Black Sheep. C'est en fait l'histoire vraie d'un escadron d'avions pendant la guerre du Pacifique, tu sais, qui sont stationnés sur une île au milieu du Pacifique. Puis c'est, à chaque fois, tu as des missions contre les Japonais, machin, nanana, etc. Tu sais.
Ah, il y a Peter O'Toole dans Masada.
Donc ça, c'était de l'action, t'avais du dogfight, t'avais tout ça. T'sais. Ça, c'était vraiment de la série de guerre. T'sais. Mais moi, j'aimais bien cette série-là, d'ailleurs.
J'ai pas tant de références de séries ça de quand j'étais petit, justement parce que j'avais pas le câble, fait que la quantité de contenu était plutôt limitée. On avait
4-5
postes à la télé, puis c'était toute part des postes francophones. Ouais. Donc, t'avais pas accès à tout le contenu parce qu'ils traduisaient pas tout ou ils passaient pas tout sur ces chaînes-là.
Okay.
Les chaînes spécialisées, je connaissais pas ça quand j'étais petit. Super écran.
Mais il y en avait pas, moi, quand j'étais petit.
Non, des chaînes, ça n'existait pas.
Ben oui, le câble, il y avait quand même... tu pouvais avoir 30 pas sur le câble. Fait que
ah ouais? À cette époque-là?
Oui.
Pas moi, pas quand j'étais petite.
Ben oui.
Dans les années 80?
Ben, dans les années 80, oui.
Ben oui, mais là, moi, j'étais pas à Montréal les années 80.
Quand j'avais 6-8 ans, mon ami, il avait le câble. Puis en plus, c'était la machine. C'est une espèce de rectangle super épais avec des pitons switch, là. Puis un fil plugué dans la télé, là. C'était pas simple, là. C'était encore UHF, VHS, mais avec le UHF,
VHF.
Avec le câble. Fait qu'il fallait que tu fasses ta sélection de 1 à 14. Puis après ça, mais c'était avec des switch. Mais c'était une remote à fil. Moi, j'avais un VHS avec une télécommande avec un fil.
Oui, moi aussi, j'ai
puis
ça.
Puis on programmait quand on voulait enregistrer des émissions, là. T'avais 14 spots de tuner, là. Tu peux même pas tout tuner. T'as des petites roulettes analogiques où il fallait que tu tunes ton poste comme si tu tunais un poste de radio avec un tournevis. C'est sans farce. Il fallait tuner les postes à la mitaine avec un tournevis. T'étais juste un peu à côté, mais il y avait de la neige dedans. C'était malade. Vive 1986.
On a tous vécu ça. Bon, mention spéciale pour la musique.
La musique.
Trop de musique.
La musique quand j'écoute.
Il y a trop de musique. Surtout, non, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est à chaque moment un petit peu genre... Tu sais, tout à coup, c'est genre... comment elle s'appelle? Juliette, la leader là, de la résistance, puis Mike Donovan. Mmh. Tu sais, qu'ils se retrouvent les deux, puis il y a un truc qui se passe entre eux. Là.
Saxophone.
Et tout à coup, t'as la musique de film de cul qui se démarre. Ça, c'est tellement drôle. Et ça tue tout le truc. Mais c'était vraiment un truc qui se faisait à l'époque. C'est fou. Mmh. Quoi.
Ouais, j'étais en train de...
Ça vient du soap aussi beaucoup. Dès que t'as une scène romantique, là, c'est le... C'est ça, c'est le saxophone ou la musique de, d'ascenseur ou de film de fesses qui est comme, pour trop, genre, je te dis que t'as l'émotion que tu devrais avoir, même si c'est un peu contradictoire avec la scène, vu que le gars, il est trop macho.
Et maintenant, tu vois ça, mais t'es mort de rire, mais vraiment, quoi, c'est...
Les matantes à l'époque, ils trippaient là-dessus.
Ben, écoute,
on aimait tout ça, c'était comme, c'était la normalité à l'époque. Ouais. Donc, voilà. Oui, t'allais dire un truc?
Non, mais c'est fou parce que, moi, le saxophone, c'est un instrument que je trouve super beau.
Oui.
Mais ça peut tellement être...
Mais pas comme ça.
Je sais.
C'est quoi la tune de saxophone de pop, là? C'est comme la toune la plus kitsch qu'étienne de scène d'amour, mais ça vient pas d'un film.
Ah ouais, mais parce que je pense que c'est comme une sorte de truc de musique d'ascenseur. Là. Moi, je pense pas qu'il y a une.
Oui, il y a une toune qui représente tout ce qu'on vient de parler depuis tantôt, qui est comme l'espèce d'apogée que la pop a créé à cette époque. C'est pas de la pop, c'est comme genre. C'est Kenny G qui aurait dû écrire ça, mais c'est pas Kenny G, parce que c'est de la flûte, là. Mais,
non, c'est du saxophone.
Oh my god!
C'est une toune de Kenny G, d'abord.
Je savais pas que Patrick Swayze jouait dans North and South.
Pourquoi tu
parles de North and South?
Parce que je regarde les
séries de guerre de
93, ça.
Mais non, c'est 80.
Non. Ah, je pense à Due South.
North and South, c'est le truc qui se passait entre...
Ah, c'est la guerre de
sécession. Mais ça, c'était toutes des séries des années 80, là. Ouais. Non, excusez-moi, c'est parce qu'on parlait des mini-séries qu'il y avait dans les années 80, puis donc j'ai comme fait une petite recherche, puis je suis tombée sur... Okay. Oh, Lace! Oh mon Dieu, c'était tellement quétaine, ça!
Lace, je sais pas ce que c'est.
Oui, c'est l'histoire d'une fille qui est une actrice porno puis qui décide de retrouver sa mère. Mais finalement, c'est comme elle sait pas parce qu'il y a trois filles qui ont fait un pacte d'écrire dans un journal puis elle sait pas laquelle est sa mère. Puis donc, elle va retrouver trois femmes puis là, elle va essayer de les confronter pour savoir laquelle est sa mère.
Ils ont fait une série avec une prémisse aussi simple.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Ah, c'était tellement excellent, tellement qu'était.
Pourquoi on parle de ça d'abord?
Parce que c'est une série des années 80.
OK, on a oublié de parler, on parlait de séries de sci-fi, c'était pas toujours de la sci-fi, mais disons, on parle de genre, là.
Ouais.
Dans les années 80, il y en a eu plusieurs. Il y avait encore du Alfred Hitchcock présent.
C'est vrai.
Il y avait Ray Bradbury présent.
Oh,
c'est vrai.
Et il y avait...
Ça, c'est toutes des années avant, là, c'est 70, ça.
Ouais, non.
Alfred Hitchcock présent, ça a duré toutes les années 80. Ray Bradbury, ça a pas commencé au moins avant le début des années 80.
Excuse-moi, mais
ça continue dans les années 90, probablement, jusqu'au début.
T'as pas écouté tantôt quand je disais qu'il y en avait pas tant que ça des...
C'est parce que c'était comme un peu Twilight Zone ou Outer Limits. C'est qu'il surfait sur plein de genres dans tout ce qui était un peu fantastique ou épeurant. Mais moi, parce qu'il y avait des épisodes dans toutes ces séries-là qui touchaient à la science-fiction, parfois.
Ben, juste pour dire, Alfred Hitchcock présente, OK, comme il est mort en 80, Alfred Hitchcock, ça a duré de 1955 à 1961. Donc, c'était des reruns. C'était pas...
Non, ils ont fait des remakes en couleur de ça, là.
Des remakes?
Ouais, il y a eu une autre série après, là. C'était pas des reruns des années 60 que j'écoutais, là.
Ouais, t'as raison, il y a eu un remake... en 85. Mais ça, c'était... Moi, je me rappelle avoir vu l'original. 85. Ah oui, il y a eu 4... OK, t'as raison. De 85 à 89, il y a eu... Mais je pense que c'était un reboot. Update remakes of classic story original produced by the master of suspense. OK. Donc, c'était des remakes des originaux, effectivement.
Ray Bradbury, ça, c'était pas mal dans les années 80. Puis il y avait eu d'autres séries qui sont moins connues, dont une qui passait à TQS, que... Mon ami, pendant 20 ans, je l'avais écouté aussi, pendant 20 ans, il essayait de retracer c'était quoi cette série-là. Faudrait que j'y redemande, là, mais ça a un nom genre... pas possible. Puis c'était des histoires... C'était une copie, dans le fond, de Hitchcock présente puis de Ray Bradbury. Ça a duré une seule saison, avec des épisodes super marquants, beaucoup plus glauques que... Je parle à travers mon chapeau parce que je peux même pas vous retracer.
Merci!
Sur la pochette, on trouve dans les clips, c'était un petit singe.
On sait qu'il y a une série qui existait.
Okay, je vous en reparle la prochaine épisode.
Mais le point est que t'aimais ce genre de série-là, qui était des épisodes d'une heure, qui racontaient une histoire qui n'était pas nécessairement liée en série.
C'est ce
qu'on n'a plus aujourd'hui.
Puis là-dedans, il y avait plein de petites trouvailles. Là. Mm. Comme une série qu'on pourrait faire, c'est Outer Limits, puis... ou Twilight Zone, ou... en tout cas, il y en a, tu sais, des masses de séries comme ça, c'est des épisodes indépendants, puis ça touche à toutes sortes de genres différents. Et là-dedans, il y a des épisodes qui sont souvent très mauvais, puis il y en a d'autres qui sont absolument excellents. Plus souvent qu'autrement, ils sont victimes de leur budget pour pas vraiment pouvoir amener l'histoire où est-ce qu'ils pourraient l'amener.
On en parlait, l'évolution de la télévision. Je sais que les Twilight Zone, il y avait vraiment des très, très bons, c'était spécial. Pour moi, c'est comme une petite perle à travers... Un univers de télévision qui, avant l'arrivée de séries comme... Moi, je vais mettre... Pour moi, j'en démords pas. Twin Peaks, c'est un point tournant de la série de la télévision. pas un producteur s'attendait à ce que Twin Peaks soit un méga succès culte, ce que ça l'a été. Ça a presque pas été produit. Je sais même pas pourquoi ils l'ont produit, là. Tu sais, genre, à un moment donné, il y a comme quelqu'un qui a dit, OK, on va la faire, David Lynch, on l'a mis et tout. Puis ça a été un méga succès. Puis après ça, ça l'a lancé plein de séries super originales, dont The X-Files, je pense, à c'est peu vrai. Près. Ouais. Je suis pas sûre que The X-Files aurait existé sans Twin Peaks, tu sais. Les Next Generation, c'était bon, mais c'était très, tu sais, comme Star Trek, Next Generation, c'était bon, mais Next Generation, c'est vraiment inégal, là. Tu sais, il y a des épisodes vraiment excellents, puis c'est plus tard encore. En tout cas, c'est la deuxième saison que ça commence à être bon.
Là, je peux pas me prononcer, j'ai vu trop peu de choses sur...
Next Generation, ben, ça serait le fun aussi, Next Generation.
Pourquoi pas, mais il faudrait faire une sélection.
Ah, ça serait juste un top 10. Serait comme genre, on raconte la prémisse là, pour la comprendre, puis c'est un top 10, puis il y en a vraiment des... excellent, là, des Next Generation, c'est impressionnant. Mais ça sera pas aussi égal, ben, comme X-Files, c'est pas tout bon et tout, mais c'est une série qui était plus...
Même dans les épisodes les mieux cotés que j'ai essayé de réécouter il y a pas si longtemps, le concept de la série a un peu mal vieilli, parce que c'est tout le temps genre Mulder qui est déprimé, qui pense à sa sœur, c'est glauque, puis là, il essaie de croiser Scully, mais il la croise pas vraiment.
Il y a toujours des extraterrestres qui sont pas venus.
Aboutissez, là. Ils ont fait quoi?
Puis les extraterrestres sont cucu, là. Ils ressemblent à des extraterrestres des années 50, là, dans des sous plastiques.
Tu sais que c'était le Black Oil puis le Cigarette Smoking Man.
Tu sais qu'ils sont en discussion pour relancer la série?
Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Non,
j'ai lu ça aujourd'hui aussi.
Ouais. Ça serait drôle.
Sinon, je suis dans les trivia de V.
On retourne à V, yes.
Et on n'a pas fait d'extrait, du tout.
C'est vrai, on n'a pas fait d'extrait du tout, mais c'est pas grave.
Tu vois les parsemés ici, là?
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'influence de la Seconde Guerre mondiale et puis de l'idée du fascisme et tout. Et c'est vrai que c'était dit que, et ça c'était avoué par le créateur, c'est que le symbole des visiteurs, c'est une swastika modifiée.
Oui, ça m'a pris un couple d'épisodes avant de le remarquer.
Ouais, c'est tout à coup
de dire. Au moins, ils expliquaient c'était quoi le langage de leur symbole. Puis quand j'ai dit ça, j'ai regardé ma langue, j'étais comme « fuck, c'est incroyable ».
J'ai pas remarqué, moi.
Et c'est fou, ça a quand même été pendant 2 ans, ça a été le show sur NBC le mieux noté. Ça faisait 80 millions de spectateurs à chaque épisode. 80 millions de spectateurs.
C'est un méga
succès. Ah ouais, à chaque épisode. Ah. Là, ça c'est la mini-série originale. J'ai pas vu les chiffres pour l'autre, mais ça quand même, c'est quand même une série assez marquante, quoi.
Ben ça
tu la regardes maintenant, tu rigoles, mais quand tu commences à regarder un petit peu...
Les séries modernes, est-ce qu'ils sont encore capables de faire ça, ces chiffres-là?
Je sais pas.
80 millions?
80 millions?
Ça doit être rare.
C'est énorme, c'est 80 énorme. Millions.
Je pourrais pas te dire quelle série a fait ça.
C'est quoi, c'est une personne sur 5 aux États-Unis, une personne sur 4?
Je sais pas quelle série a fait ce score-là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme série...
Des séries de ce style-là, là, on n'ira pas chercher des Seinfeld ou compagnie.
Ça aurait été quoi,
là,
Lost?
Ou Friends?
Lost,
ouais, peut-être.
Non, je pense que Lost, après une saison, il en perdrait beaucoup, là.
Non, en plus, c'est parce que c'était sur NBC. Aujourd'hui, la plupart des séries sont sur des canaux spécialisés que c'est pas tout le monde qui a accès. NBC aux États-Unis, c'est un
peu... Bah oui, t'as des HBO maintenant qui font de la grosse série de qualité, mais je dirais pas... Tous les networks ont quand même des trucs bons, là. T'sais.
Ouais, mais c'est ça, NBC, c'est un network national que tu peux avoir à... Mettons que t'as pas le câble chez vous, là, t'as juste des antennes sur ta télé, tu peux pogner NBC aux États-Unis.
C'est vrai.
Alors qu'HBO, ben, faut que tu sois abonné au câble. Fait que ça change quand même le potentiel de code d'écoute. De là, pourquoi La Petite Vie au Québec a fait au-dessus de 4 millions de codes d'écoute? Parce que tout le monde a accès à ce poste-là. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont rendus, qui ont été capables de se rendre à une personne sur deux, mais ça avait joué à Canal Famille, ou Super Écran, il n'y aurait jamais pu passer proche.
Je l'ai par...
Ah oui, moi, je voulais juste mentionner comme quoi, tu sais, dans la deuxième mini-série aussi, t'as l'apparition de notre ami Michael Ironside.
Oui.
Oui.
Le Canadien. Et je trouve que c'était une bonne addition. Tu sais, ça a amené un petit truc en plus. C'était un personnage sympa qui change un petit peu les choses, tu sais. Les rapports entre les personnages, le fait qu'ils s'aiment pas avec Mark Singer.
Ben oui, c'est ça. Lui, il arrive là, puis c'est le gars sérieux. Il dit, moi, je sais comment cliquer le cul aux aliens.
Je trouve que c'était une bonne idée. C'est une bonne addition.
Il est toujours bon, Mark. Ouais. Il était partout, en plus, à cette époque-là. Puis c'est pas pour rien. Ouais.
J'ai comme un top rank des finales les plus écoutées. Puis la finale la plus écoutée ever, avec 125 millions de viewers, c'est quoi?
Friends.
On l'a nommé tantôt?
Friends.
Lost.
Non, vous êtes loin. MASH.
MASH!
Non, oui.
Ouais.
Wow. Ah ouais, ça a pogné à ce point-là.
Ouais. La mini-série Roots, qui date des années 70. Elle a eu 100 millions de... Ça, ça doit être l'histoire... C'est-tu l'histoire que je pense?
Ça, c'est des Blacks à Brooklyn, ça?
Ouais, non, non, c'est l'histoire de, la... de l'esclavage, là.
Ah.
C'est comme un livre qui a été écrit, puis ça raconte... C'est un des premiers livres qui a comme... C'est intéressant. Cheers vient en troisième.
Eh, hey, mon Dieu!
Intéressant, The Fugitive vient en quatrième.
Ah, ouais?
The Fugitive, l'original. Ben, écoute, les gens, ils voulaient le savoir, tabarnak. Même si t'avais écouté un épisode, t'étais comme, je veux savoir quand ça finit, je l'ai même pas vu.
C'est bizarre que les finales aient des si grosses codes d'écoute, alors que des fois, genre, le monde manque plein d'épisodes, ils suivent pas trop. Puis...
Seinfeld, 76,3 millions. Puis après ça, tu tombes avec Friends à 52 millions. Entre Seinfeld puis Friends, t'es quand même, t'es passé à 52 millions.
50%?
Magnum P.I. Mais... Puis regarde, c'est toutes des vieux shows, là. Magnum P.I., The Tonight Show, avec Johnny Carson. Donc, la dernière fois que Johnny Carson était là, c'est 50 millions. Cosby Show, All in the Family, Family Ties. All in the Family, c'est un soap, ça. Family Ties, Home Improvement, Frasier, Dallas, puis Everybody Loves Raymond. Ça, je sais pas.
Donc, ça, c'est... Puis on dirait que les shows qui ont les plus gros ratings, c'est dans les années 70, quand il y avait moins d'offres de diversité de la part des réseaux.
L'exception,
t'avais
c'est... T'as deux exceptions.
22 séries en même temps.
Non,
t'en avais une, deux.
Ben, t'as l'exception, ça serait Everybody Loves Raymond, qui est comme 32 millions de la dernière.
Mais rien de plus récent que ça.
2005, c'est le plus récent.
Ah, ben, tu vois, je pensais que des séries comme Lost ou quoi, ça aurait été.
Ben, c'est bizarre, c'est, hein.
Je sais pas, moi, Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, c'est quand même. C'est un peu. C'est niche, quand même. C'est particulier, là. C'est pas,
Game
c'est
of
pas
Thrones,
tout le monde.
Il
y a trop de séries, fait qu'ils se partagent des codes d'écoute plus basses.
Ouais.
Fait quand ça arrive à 30 millions, aujourd'hui, ils sont super contents.
Ah, c'est clair.
Ouais, puis il y a aussi toutes les. Comme là, tu vois, American Idols, a l'air à prendre la place. Saturday Night Football, c'est comme des trucs. Tu sais, ils parlent des shows les plus écoutés dans les années. Donc, bref, mais V n'est pas là-dedans, je te ferais remarquer. Mais c'est peut-être juste parce que la finale, les gens sont tannés avant la finale.
C'est ça.
Ouais. Oui, 19 épisodes quand ça fait genre 16 que tu ne suis plus bien.
Ouais. Mais est-ce qu'on en a parlé de cette finale, finalement, de la mini-série avec l'enfant et au super-pouvoir?
Oui, on a dit que c'était cucu.
Et la poussière, la poussière rouge.
Cosmique,
ouais, tout à coup, le truc de l'enfant cosmique, là, c'était...
Ah oui, l'enfant cosmique!
C'était super bizarre, là.
Oui, oui, mais là,
l'enfant
c'était la télé.
L'enfant au super-pouvoir qui sauve le monde.
Moi, j'ai ri. C'est décroché totalement.
Je pense que tu manques d'amour dans ton cœur. Parce que le message est tellement beau, c'est un enfant qui va sauver l'humanité.
Moi, j'ai tellement d'amour dans mon cœur qu'il n'y a plus de place pour des licornes puis des arcs-en-ciel.
Puis ça, ils le reprennent après.
Dans la série de SF, il y a un truc cucu, des petites histoires pour enfants.
Ah, et dans la série, après, ils repartent avec ça. C'est genre, ah, il faut ramener l'enfant parce qu'elle va pouvoir faire démarrer le vaisseau qui est parqué, je ne sais pas trop où, là. Puis ils le font. Et puis, là, j'ai commencé à décrocher complètement, quoi. Ça avait plus aucun rapport. Il n'y avait plus le fun de... Est-ce qu'on... On attaque quand même le 1, on arrive à la fin du podcast, mais c'est pas grave, on va ouvrir la deuxième bouteille. Alors, donc la deuxième bouteille, c'était un...
On va se prendre un verre en discussion du prochain.
C'est un Malbec, un vin rouge argentin, qui s'appelle El Enemigo, qui veut dire l'ennemi. Ah, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et voilà, il devrait être un bon petit rouge corsé. Et voilà, on va finir le podcast avec ça, ça va être bien. On va arroser le final.
C'est drôle parce que d'habitude, il me semble qu'on a plein de choses à dire quand même sur un film. Puis là, une mini-série, on a comme moins de choses à dire.
Mais peut-être parce que...
L'histoire est so-so, la musique est so-so, les costumes sont so-so, ça date des années 80,
C'est assez simpliste finalement, tu sais.
Mais on vient de loin, on a des séries télé maintenant, elles sont extraordinaires. Moi, je suis en train d'écouter, j'ai écouté True Detective qui est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre extraordinaire.
On peut pas tout aimer.
Essaye au moins d'écouter deux épisodes,
t'sais.
Comme quand t'auras écouté deux épisodes, on en reparlera. Puis, j'écoute The Killing en ce moment, que je trouve un petit peu cucu par bout, mais qui est comme vraiment meilleur que V, là. Tu sais, les personnages sont extraordinaires.
Non, faut pas comparer les séries de maintenant avec les séries des années 80.
Non, c'est
pas fair. C'est
à toutes les 10 ans, les séries, ils deviennent exponentielles.
Non, je pense pas que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant parce que je pense pas que les séries vont devenir bien meilleures qu'elles sont maintenant. On atteint l'âge d'or.
Ça va être difficile à topper.
On est dans l'âge d'or.
Je veux dire, maintenant, ça va être l'intelligence des scénarios, ça va être des choses comme ça. Tu sais, au niveau de la réalisation, des effets, des machins, de ci, de ça, on est pas mal arrivé. Comme tu dis.
On peut pas, à un moment donné, là.
Tu peux pas faire plus que plus. Là,
ouais, on va être rendu dans du... on va faire des hologrammes, là.
Le problème qu'on va avoir, c'est que maintenant, quand les séries pognent puis qu'ils pensent que tout le monde embarque, c'est que là, ils abusent. Ils font comme une couple de saisons de trop.
Ouais.
La première...
Ça, c'est le gros défaut
Ça, c'est 24, parce que 24, ça a été...
Le gros défaut des
aussi un des renouvellements. Tu as eu Six Feet Under, 24, qui ont reparti il y a 10-12 ans, les séries télé, ouais. fort, ouais. mais vraiment fort, des gros followings. Six Feet Under, je pense pas qu'ils ont abusé.
Ben, Lost, peut-être une petite affaire. Lost aussi, Lost, là, ça s'est fatigué là, en et milieu 24, de série.
Je pense qu'ils sont rendus à 8-9. Je veux dire, après 4, il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient déjà répété deux fois la même saison en 4 saisons.
Ouais.
Et ils ont continué. Puis à un moment donné, c'est devenu abominablement mauvais. Pourtant, c'était la même recette.
Parce que ça fait du fric. Parce que voilà, les gens... Ah, il y a un nouveau 24, on a adoré la saison d'avant. Allez, on va regarder la suite. C'est juste une histoire de fric. C'est terrible, mais c'est ça. Les Américains ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas tant que ça marche, tant qu'ils font du pognon.
Regarde Doctor Who,
il
joue encore. Hein.
C'est vrai. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que sinon, les...
Doctor Who. Mais c'est bon en ce moment, Doctor
Who. Mais je dois dire que les Anglais sont très forts.
Là, j'ai pas écouté la nouvelle.
Les Anglais sont très forts pour faire des séries courtes. Peu d'épisodes, des saisons courtes, peu de saisons. Ça, il s'arrête au bout de 3.
Mais moi, 4. Je t'avoue que c'est un truc que j'adorais avec True Detective. 8 épisodes d'une heure.
Ouais, c'est bon, ça.
C'est comme genre une sorte de gros méga film. C'est comme un truc, là. Ça, c'est bien. Tu découvres les personnages, tu vis une émotion, tu vis une histoire, puis t'es pas comme. Puis c'est finement écrit, là. T'as pas besoin d'aller dans des. Des fois, il y a des raccourcis, là, dans les séries qui sont relativement peu crédibles parce qu'ils doivent remplir du temps. Donc, ils vont comme vraiment t'amener l'intrigue à des endroits juste pour te faire promener, là. Mais anyway.
Voilà, tes paroles ont été accompagnées par le doux bruit du vin qui coule dans
le verre.
Le vin
arrive, la bière.
Voilà. Bon ben à votre santé les amis.
Santé. Et
puis sur ça, on va conclure. On va conclure ce podcast. Avant que quelqu'un veut rajouter quelque chose.
En buvant un vin qui s'appelle Enemy.
Ouais, qui s'appelle Enemy.
Alors, c'est quand même spécial. Si un jour quelqu'un arrive chez vous puis te donne une bouteille de Enemy, comment tu te sens?
Comment tu le prends?
J'ai une bouteille de
même. Fais un petit dessin de toi sur l'étiquette. Il y a un peu de place derrière.
J'avoue, c'est une fois qu'on va boire le vin en toute sécurité.
Ah, que je vous aime, vous autres. Le vin est bon, c'est parfait.
Oui, je ne l'ai pas goûté d'ailleurs.
Oui, hein, j'avoue que c'est un des épisodes où on a beaucoup trop tergiversé sur d'autres sujets.
Parce que
mais peut-être parce que, voilà, simplement, ça nous parle plus.
C'est dommage, j'ai tellement aimé ça quand j'étais petit. Ça m'est resté dans la tête longtemps. J'avais hâte autant que j'avais peur de le regarder.
Mais ça, c'est
de
intéressant.
Le revoir, là,
C'est ça qui est intéressant. Pourquoi à l'époque ça nous attend plus? Parce que c'était une autre époque. Parce que voilà, on avait une autre culture. On n'était pas baigné. On n'était pas noyé même dans.
Écoute, moi ça me plaisait, mais je dirais pas que c'était un truc culte. Comme moi, ce que j'ai peur de voir, c'est Albator. Parce que quand j'étais petite, j'aimais tellement Albator, puis on me dit
qu'il fallait
pas. On me le dit qu'il faut le revoir.
J'ai revu quelques épisodes de la première saison, là, les genre 4-5 premiers épisodes. C'est déprimant.
J'ai même vu le film qu'ils ont fait il y a pas longtemps, un film japonais.
Ah ouais, c'est bien ça.
Le truc en 3D, c'est bien, mais c'est comme autant de positifs que de négatifs à dire. Là. C'est pas inintéressant, mais.
Tu sais que moi, j'ai une ébauche.
Je pense que le mythe qu'on avait quand on était petit, je pense que c'est mieux de rester avec cette image-là que tu t'es fabriqué toi-même du souvenir.
Ouais. Je te l'ai pas dit que j'ai une ébauche d'un film d'Albator que j'ai écrit. Mais une grosse ébauche, j'ai peut-être 15-20 pages.
Puis Capitaine Flamme, ça a-tu...
J'étais une grosse fan d'Albator, puis à un moment donné, j'ai repris...
Capitaine Flamme, tu n'es pas
ça, c'était
de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme.
Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Non, mais regarde, c'est pas pire. Le V nous a amené sur d'autres choses. T'sais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Pourquoi ça nous a plu à l'époque, puis pourquoi ça nous plaît plus maintenant? Pourquoi ça nous fait plus rien?
La question que tu te poses, c'est-tu parce qu'à l'époque, on était petit puis qu'on avait moins de
on
goût?
Était impressionnable.
Mais les gens de l'époque, les adultes, écoutaient ça puis aimaient ça.
Ouais.
Je pense que c'est une série qui, tu sais, comme je me rappelle, Dallas, les gens écoutaient ça. Même François Truffaut adorait Dallas. Il trouvait que c'était super bien écrit.
Hein?
I'm not kidding. Wow.
Il a mal vieilli.
Mais tu sais, Dallas, c'était comme un gros soap, mais c'était un très bon gros soap. Là. Moi, je l'ai tout écouté, Dallas. Puis j'ai écouté des soaps, puis je peux dire qu'entre Dallas puis les soaps que j'écoutais, Dallas, c'était vraiment meilleur. Mais c'était un soap. Mais bref, donc à l'époque, on n'avait peut-être pas le même... Pour nous, écouter la TV, c'était pas la même expérience que de voir un film.
C'est vrai,
ouais.
C'était pas le même jugement. On s'attendait pas à la même chose, puis il y avait quelque chose de très rafraîchissant d'écouter quelque chose de vraiment un petit peu stupide qui nous en demandait pas tant que ça. Maintenant,
ouais, ça faisait rêver.
Écouter une série télé, là, c'est un engagement qui est vraiment difficile.
Mais je te disais, quand j'étais petit, là, je regardais V, moi, je prenais ça au sérieux, là, mais j'avais le psyché d'un enfant de 8 ans. qui tripait sur de la sci-fi puis qui voyait des reptiles. Ça me fascinait. J'étais absorbé là-dedans. Je prenais ça autant au sérieux qu'un film. À cette époque-là, puis aujourd'hui, vraiment pas.
Moi, je te dirais... Écoute, j'ai tellement écouté la TV. Là. Je vais faire une confidence. À un moment donné, ma mère, elle m'a interdit d'écouter de la TV. Fait que j'avais le droit d'écouter juste une heure par jour parce qu'elle trouvait que j'écoutais trop la TV. Tu sais. Mais moi, j'écoutais la TV. J'écoutais. C'était fou tout ce que j'écoutais. J'écoutais tout.
Ça me rassure quand tu dis ça.
Ah ouais,
c'est pour ça que t'es une même aujourd'hui.
Je vois mes gamins qui me demandent tout le temps l'iPad. Ça m'inquiète, mais ça me rassure quand j'entends ça.
Non, mais écoute, j'écoutais, ben, je sais pas, hein, tu sais, tu veux qu'on regarde mes accomplissements dans la vie, puis peut-être pas, je suis peut-être pas un modèle à suivre, hein, pour tes enfants. Mais
ça, on le voit pas, hein.
ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est ça, pourquoi je te parlais de Masada tantôt, de High Claudius, ou de d'autres trucs, c'est que j'ai tout vu ça à cette époque-là, okay, dans les années 80, avec V. Il y a comme un melting pot de choses. Puis, quand j'écoute une série aujourd'hui, c'est tellement plus complexe. Puis, t'écoutes... Puis là, quand j'écoute les séries, là, des Game of Thrones, des House of Cards, des Battlestar Galactica, Breaking Bad. Ça, c'est des séries là, qui font en sorte que quand t'écoutes ça, là, tu commences à l'écouter, tu peux pas l'arrêter.
Tu t'investis dedans.
Tu peux pas l'arrêter, puis t'es comme...
C'est pas juste...
T'es complètement très, très stimulé, là. Ouais. C'est fatigant presque écouter ça d'une certaine façon.
C'est comme House of Cards, des intrigues politiques super complexes. Tu sais, j'en perds, je te dirais, là, 10-15% quand j'écoute ça, mais je suis scotché, je suis pas capable d'arrêter, puis j'ai tellement hâte que la saison 3 commence.
Mm-hmm.
Puis pourtant, tu te dis, ce genre d'affaires, en plus, dès que je vais avoir fini, je vais vouloir la réécouter au grand complet, parce que je suis sûr qu'il y a des petites nuances que... C'est rendu plus complexe en termes de storytelling que du cinéma.
Ben,
c'est la grande force des séries télé aujourd'hui. Ouais. Ils ont compris le pouvoir que ça a, le développement de personnages, tout ça, qui fait que c'est devenu tellement bien. Quoi.
C'est comme avant, c'est comme lire un roman là, de 800 pages versus lire un petit livre de 100 pages. Les deux sont le fun, mais on aime ça, lire les grosses briques. La série télé est rendue l'équivalent de la grosse brique, vraiment fascinante.
Donc, c'est la littérature qui a influencé vraiment la
saga
littéraire. Écoute, tu as 5 livres de 800 pages.
Ben, Game of
même au Québec, là, des
Game of
sagas
Thrones,
littéraires.
C'est tiré d'une série, d'un livre, d'une banque.
Oui, mais tu mettons au Québec, là, Jean-Jacques Pelletier, qui a une série, je pense, c'est 7 livres d'à peu près 400 à 500 pages. C'est une saga d'une conspiration internationale, d'une espèce d'affaire qui n'a pas d'allure, puis il parle depuis des années de le faire en série télé, mais ça prendrait pas en bas de probablement une saison par livre qu'il a écrit.
Mmh.
Donc, on en a pour Satan, tu sais.
Comme Game of Thrones.
Ouais.
C'est la même affaire.
Ouais, même affaire. Bon.
Alors, finalement, on a parlé de la série télé en parlant de V.
C'est
résumé notre podcast.
C'est ça qui est
en conclusion.
Moi, je trouve très bien.
V nous a servi.
Regarde,
on
est
servi
à parler de l'émotion de 1h18 à peu près, là.
Quand même.
Donc, quand même, tu vois.
C'est peut-être juste parce qu'on a bu moins vite qu'on pensait que.
Peut-être. Bien, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on a décidé
qu'on fait
la prochaine fois?
Conehead.
Mac
et moi.
On a parlé de
Mac et moi.
Oh, petit poche de E.T. là.
Oh non, Mac
non,
et moi.
Faire,
là,
non,
ça va pas passer.
Ça va me retraumatiser, ce film. Non, vous avez dit quelque chose de pas pire tantôt. Il n'y a pas Galaxy Quest?
The Fountain.
Moi, j'avais dit Galaxy Quest, mais...
Galaxy Quest,
un truc un peu plus léger, ludique. Ce serait pas pire.
Ou alors Last Starfighter. C'est bien, ça.
Moi, j'avais sorti une autre comédie.
C'est un film assez marquant.
Starman.
Ah, Starman, j'aime beaucoup ce film.
Mais attends, j'ai pas vu ça.
Ah, il y en a, on a le choix, là.
Back to the Future.
Arrête, là, ça fait des mois là, que j'arrête pas de
dire. On va le faire le 21 novembre 2015. La date qui est sur le dash, là, je m'en rappelle.
Je pense que c'est ça. Mais j'arrête pas de dire à ma blonde que là, j'ai envie de me revoir la trilogie. Ça fait tellement longtemps, là, tu sais. Et j'ai vraiment envie.
Nike est sur le point cette année de sortir ses souliers auto-lassants. Le overboard, c'est fait. Les chars volants, c'est fait. Bon, c'est pas courant, mais c'est fait. On commence à rattraper le film jusqu'à un certain point.
C'était Men in Black que j'avais dit.
Men in Black.
Le premier seulement.
Ben oui, bien sûr.
Ben, donc on reste dans les extraterrestres.
Oui, c'est ça. J'ai pensé à Mars Attack aussi. Après V, ça pourrait être drôle.
Oui.
Mars Attack, on fait Mars Attack.
Oui. Okay. On fait Mars Attack, ça marche.
Okay.
Donc c'est ça.
Ok, après Mars Attack, on n'a pas le droit de faire de film extraterrestre pendant trois.
Okay. C'est quand qu'on fait c'est quand qu'on fait rencontre là. Moi j'attends qu'on fasse rencontre.
Ouais, mais là, tu vas avoir 300
films. Ok, ça marche. Bien. Okay. Bon, en attendant, Marie-Louise, t'es sur Facebook.
Yeah, Facebook.
Olivier, t'es Olivier Sabineau sur Facebook. Ouais. Moi, je suis sur Twitter et Facebook, un peu partout. Et pour s'abonner à ce podcast, c'est sur 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis toujours, sans oublier de nous laisser un petit commentaire ou un petit rating. Ça, c'est toujours bien. Ça fait toujours plaisir. Pas juste des likes dans Facebook, aussi des petits commentaires et des petits ratings dans,
vas-y,
dans
Guillaume, iTunes. Vas-y, Guillaume, écris-nous quelque chose.
Et puis, suivez-nous sur Twitter, @24quarks. Et puis, bien sûr, la page Facebook où il se passe des choses. Et puis, donc c'est ça, la prochaine fois, on a donc décidé que ça serait Mars Attacks, et je me réjouis d'avance, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, celui-là aussi.
Mais justement, on espère qu'on n'a pas la même réaction quand on écoute tout, mais je pense pas.
Non, je pense
Mars
pas.
Mars Attacks est quelque chose de trop
non,
fou.
Mais ouais. Peut-être que le film a un petit peu mal vieilli. Faut que je revoie pour être sûr. Mais
c'est de l'époque du bon Tim Burton, quand même. Ouais. C'est à l'époque qu'il faisait toute une série de bons films.
Il était très influencé par un peu ce qu'a fait... voyons, tu sais, quand il a niaisé le film avec Johnny Depp, là, de...
Oh, Ed Wood.
Ed Wood. Il y a quelque chose de beaucoup Ed Wood là-dedans. Ouais, là, de genre, je m'auto-satire. Ben, je sais que c'est niaiseux ce que je fais, mais c'est à double sens.
Non, mais regarde...
Mais on va se garder ça pour la prochaine fois. Arrête, non, prends pas d'avance, là. On va se garder ça pour la prochaine fois. Ben on va se quitter avec la bande-annonce du film. Je sais pas encore si je vais mettre des extraits dans le podcast. Parce que, voilà, on n'a pas, j'ai pas fait de place aux extraits, c'est pas grave. Mais voilà, on se quitte avec la bande-annonce du film. Et ben en attendant, merci de votre fidélité et à la prochaine fois. Bye.
Professor. What do we know about them?
We know they're extremely advanced technologically, which suggests, very rightfully so, that they're peaceful. I suspect they have more to fear from us than we from them.
Ladies and gentlemen,
Martian ambassador is going to say a few words.
Come on down, Mr. Ambassador.
Whoa.
That's a Martian? That's gross.
My God.
Yikes.
Hey, we all make mistakes, Mr. President.
This could be a cultural misunderstanding.
Mr. President, they have a planet surrounded with thousands of warships.
What do you think, Marcia?
Kick the crud out of them.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.